Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, un livre va nous servir de fil rouge. Le titre de ce livre, c'est Les Faussaires de Dieu. C'est une réédition d'un livre paru déjà en grand format, mais là en format poche. Son auteur est en ma compagnie, Joachim Boufflet. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous retrouver à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange. Je garde une très très bon souvenir, de très bons souvenirs de cette émission que nous avons faite ensemble sur la lévitation chez les mystiques.
Oui.
Qui m'a appris personnellement plein de choses, et je sais que vous savez que nous avons un site internet pour podcaster, télécharger les émissions, qui s'appelle psyland.org. Eh bien écoutez, cette émission fait partie du top 5 vraiment des émissions les plus téléchargées, toutes catégories, tous sujets confondus.
C'est très bien.
Voilà. Donc, et j'espère que beaucoup de nos auditeurs et auditrices se sont jetés avec avidité et gourmandise sur votre livre, parce que pour aller plus loin, c'est vraiment passionnant. Donc là, j'ai le plaisir de vous avoir avec moi ce soir sur Sud Radio pour ce livre, donc Les Faussaires de Dieu, dans la collection Petite Renaissance chez l'éditeur Presse de la Renaissance. Le sous-titre est intéressant, Phénomène surnaturel, où est le vrai point d'interrogation. Donc on a compris qu'on va rentrer un petit peu avec vous, explorer les mécanismes, non pas de ces phénomènes surnaturels, mais comment est-ce que les gens les vivent et pensent les percevoir. Ce qui est tout à fait intéressant, mais de ce livre.
Alors l'objet du livre, c'est tout simplement de donner précisément, comme vous le disiez, un fil conducteur face à toutes sortes de phénomènes bizarres ou qu'on a très vite qualifiés de surnaturels, et donc de voir en quoi ces phénomènes sont réellement surnaturels, ou bien ressortissent au paranormal, ce qui est un autre domaine, ou bien quelquefois même sont l'objet de fraude ou d'illusion.
On a bien compris donc ce dont on va parler durant ces deux heures avec vous, Joachim Boufflet. Avant de faire une première pause, vous qui nous écoutez, si jamais vous avez été témoin d'un phénomène justement d'apparition, si vous pensez avoir vécu un phénomène surnaturel ayant un lien avec votre foi, qu'elle soit bouddhiste, musulmane, chrétienne, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, me laisser vos coordonnées sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange pour que je puisse vous rappeler et à ce moment-là faire une émission ultérieurement uniquement consacrée à vos témoignages avec votre participation, éventuellement Joachim Boufflet, si vous voulez nous apporter votre connaissance dans ce domaine, si vous le voulez bien.
Bien sûr.
Eh bien écoutez, ce sera avec plaisir. Donc 0826 300 300, vous pouvez également écrire par mail étrange@sudradio.fr. Une première pause et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet. À tout de suite.
Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit sur Sud Radio.
Joachim Boufflet, historien, est mon invité et auteur de nombreux livres. C'est la deuxième fois qu'il est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Alors, Les Faussaires de Dieu, votre livre paru aux Presses de la Renaissance est sorti maintenant en collection de poche, dans la collection Petite Renaissance. Et vous attaquez ce livre, vous commencez ce livre en nous racontant votre rencontre avec le Padre Pio. En Italie, c'était à une époque fort troublée en France et en même temps en Europe, puisque en 68, donc ce qui s'est passé en France a eu des répercussions ensuite dans toute l'Europe, voire même dans le monde entier. Et vous étiez fort jeune à cette époque-là, d'après ce que j'ai compris.
Oui, j'avais 20 ans.
Voilà, le bel âge. Le bel âge. Et vous êtes parti en Italie en 68. Racontez-nous ça.
Je suis parti parce que nous avions entendu parler d'apparition, entre guillemets, d'apparition de la Vierge dans le nord de l'Italie, à San Damiano.
On en parlera d'ailleurs très largement tout à l'heure, parce que ça occupe une place prépondérante dans votre livre.
Et je voulais savoir un peu de quoi il retournait. Nous étions plusieurs étudiants, nous sortions des événements de mai 68, nous avions la tête beaucoup plus à la liberté et aux vacances qu'aux études, il faut bien le dire.
J'imagine bien.
Et nous avons décidé de faire une petite virée en Italie par petits groupes, et moi je suis parti tout seul en fait, en stop, puisque c'était le grand moyen de locomotion de l'époque.
Oui, à cette époque-là, on pouvait se le permettre.
Tout à fait. Et c'était en plus très coté, je dirais.
Oui.
Ça faisait partie des usages courants.
Mmh.
Et donc, je suis parti en Italie, et je suis arrivé à San Damiano, et je suis allé ensuite, j'ai décidé de descendre plus bas, voir Padre Pio. Padre Pio était un prêtre stigmatisé, capucin,
oui,
qui depuis a été d'ailleurs canonisé par l'Église, c'est un saint maintenant, et il était encore vivant, je me disais, c'est l'occasion ou jamais d'aller le voir. Bon. Alors j'y suis allé, toujours en stop, et puis j'ai été très mal à l'aise sur les lieux, à cause de la foule, à cause de l'ambiance, etc.
Mmh. Ouais, ouais. Il faut dire que ce à quoi vous avez assisté, parce que vous avez assisté à une messe donnée par le Padre Pio,
oui,
et vous relatez dans votre livre la foule qui s'amasse oui, devant la porte.
Devant la porte, oui, en attendant l'ouverture de l'église.
Rien, enfin, les pèlerins avaient des attitudes que je qualifierais de très humaines, pour être gentil.
Ah, mais heureusement, oui, mais c'est très bien d'ailleurs, mais moi je n'étais pas du tout habitué aux mentalités italiennes, d'une part,
ouais,
et encore moins aux mentalités de pèlerinage.
Oui, oui, oui. Et puis là, cette espèce de ferveur.
Ah, mais une ferveur enthousiaste, oui.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, bousculade. Enfin, si vous étiez tombé, vous aurez marché dessus quand même.
Ah, complètement, oui, j'aurais été piétiné.
C'est fou quand même, ça.
Oui, non, mais c'était comme ça, puis c'est tout.
Oui, 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 oui. Vous l'avez mal vécu quand même, hein,
ça. Ah, sur le moment, j'ai très très mal vécu, oui.
Hein, c'était pas vraiment ce à quoi vous attendiez.
Beaucoup.
Ouais, ouais, ouais. Alors, racontez-nous vos sensations comme ça. C'était ce que vous relatez dans votre livre,
oui,
l'attente, l'oppression et ensuite les portes qui s'ouvrent.
Alors oui, on était bloqués contre les portes. Il fallait se rendre très très tôt à l'église parce que les portes ouvraient assez tôt. Et il y avait une foule considérable qui voulait entrer, bien sûr, donc on était arrivé vers 4h30, 5h du matin, je crois.
Ah oui, oui.
Et donc on était dans les premiers rangs, la foule se tassait derrière nous et poussait, bien que les portes fussent fermées. Finalement, les portes se sont ouvertes, moi je suis entré comme je pensais qu'on entrait dans une église, c'est-à-dire calmement et tranquillement. S'est rué derrière moi et j'ai failli être littéralement piétiné. J'ai réussi à me plaquer contre un pilier et j'ai malheureusement perdu la place que j'avais, évidemment, parce que j'étais dans les tout premiers, et puis je me suis retrouvé débordé par cette foule et dépassé. Heureusement, j'étais avec une de mes amies qui était habituée et qui a couru avec les autres aussi, parce qu'on courait littéralement dans cette église pour atteindre les premiers bancs, et qui avait réussi, c'était une matrone assez imposante, à me garder une place. Et j'ai littéralement sauté de banc en banc jusqu'à ma place réservée, donc j'étais au deuxième ou troisième rang, je ne me rappelle plus.
Mmh.
Et finalement, j'ai réussi à être près de l'hôtel où célébrait Padre Pio.
Mmh.
Et puis là, bon, ben, j'ai assisté à la messe, ça a été un moment étrange, je dois dire assez étrange, d'abord parce que j'étais très impressionné et puis en même temps très déconcerté. C'est une messe qui a duré longtemps. Je n'ai pas vu ses stigmates alors que je voyais très bien ses mains, il n'était pas très loin de moi.
Oui.
Donc je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas voir ses stigmates? Je suis en état de péché, que sais-je? Enfin bon, bref, je me suis fait tout un cinéma. Et puis je suis ressorti dans la sacristie, où les hommes étaient admis à ce moment-là.
Mm-hmm.
Et Padre Pio passait dans une chaise, un fauteuil roulant. Il ne pouvait pratiquement plus marcher. Il est mort d'ailleurs juste un mois jour pour jour après.
Ouais.
Et il est passé parmi nous en nous bénissant. Et puis arrivé à ma hauteur, il m'a posé la main sur la tête sans rien dire. En souriant, puis il a continué. Et j'avoue, j'étais assez bouleversé.
J'imagine, parce que ça doit être...
Oui, et puis ce regard, enfin il avait un regard absolument extraordinaire. Et un air de bonté absolument extraordinaire.
Un regard plein d'amour, vous voulez dire, sans jugement?
Ah, complètement,
ouais.
Complètement.
Mm.
Aucun jugement, un regard, je dirais, de tendresse.
Ouais.
Et donc, je suis reparti après, j'ai voulu me retrouver plutôt dans la solitude, donc je suis parti derrière dans les oliviers, dans les champs d'oliviers.
Mm-hmm.
Et puis l'après-midi, je suis redescendu dans la chapelle, la petite chapelle, où il a reçu les stigmates. moment-là, un jeune capucin est venu, a regardé un peu qui se trouvait dans la chapelle et est venu vers moi. J'étais le plus jeune, visiblement.
Jeune et robuste, et il dit, tiens, lui, il ira
voilà.
bien.
Il m'a demandé si je pouvais l'aider à transporter une statue de Saint-Louis mm-hmm. en carton bouilli, une grande statue sulpicienne qui était grandeur nature, mais enfin qui était relativement légère parce que c'était carton bouilli.
Oui, mais très encombrante, mais évidemment.
Encombrante, ouais. parce qu'il fallait la transporter de la petite chapelle jusque dans l'église, puisque le surlendemain, c'était la fête de Saint-Louis, et chose que j'ai apprise à ce moment-là, Saint-Louis étant tertiaire franciscain, était très honoré par les capucins.
D'accord.
Voilà. Bon. Donc, nous passons, il prend la statue par la tête et moi par les pieds, par le socle, et nous passons à travers le cloître pour aller dans l'église. Mm-hmm. Et que vois-je dans le cloître? Sous les arcades du cloître, je vois Padre Pio, qui semblait somnoler, toujours dans son fauteuil, et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible d'être aussi près de lui et ne pas pouvoir lui parler. Bon, enfin, il fallait porter la statue.
Ouais, ouais.
Et nous portons la statue, et puis on commence à l'installer sur un tabouret qu'on drape de tissu doré, et on met des fleurs, etc. Et ça durait. Et je me disais, mais c'est pas possible, jamais ça ne terminera, et puis je ne pourrai pas voir Padre Pio. Et j'ai l'impression que le petit moine faisait exprès.
Mais oui, évidemment.
Pour me titiller. Et finalement, ça s'est enfin terminé. Et je lui dis, bon ben, comment fais-je pour regagner la petite chapelle? Je veux retrouver la petite chapelle. Mm-hmm. J'avais mon idée derrière la tête, et lui certainement aussi.
Évidemment.
Et il me dit, ben, tu sais par où tu es venu? Je dis, bah, très bien, je repars par le cloître. Et je suis reparti par le cloître.
Ouais.
Padre Pio était toujours là. Et là, j'ai littéralement sauté vers lui. J'ai couru vers lui. Et je suis tombé à genoux devant lui. Parce que d'abord, emporté par ma course, je pense, et puis un peu pris par l'émotion. Et au moment où j'arrivais vers lui, deux capucins sont arrivés qui ont voulu sans doute me chasser ou m'écarter, peu importe.
Mmh. Ouais.
Et à ce moment-là, Padre Pio leur a fait un signe de la main très léger, enfin, et ils m'ont laissé avec lui. Et donc, j'ai pu voir Padre Pio pendant une demi-heure.
Vous vous rendez compte?
Mais oui, je me rends compte, oui, je me rends compte tous les jours, vous savez.
C'est un vrai privilège que vous
C'était
avez.
C'est un privilège, ouais. Absolument.
Ouais. Et alors, que s'est-il passé durant cette demi-heure, puisque j'ai la possibilité d'avoir dans mon émission quelqu'un qui a pu approcher de si près Padre Pio?
Ben, il s'est pas passé grand chose, à vrai dire. Il s'est passé beaucoup de choses et peu de choses.
Mmh.
D'abord, bon, il avait des mitaines sur les mains, donc je n'ai absolument pas pu voir s'il était stigmatisé ou pas. Et je dois dire qu'à ce moment-là, je m'en fichais complètement.
Oui, c'est ça, j'imagine bien. Ouais. Ouais.
Et puis, surtout, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne parlais pratiquement pas l'italien.
Mmh.
Et lui, à ma connaissance, ne connaissait pas le français. Enfin, ne parlait pas le français de façon naturelle, en tout cas.
Ouais, ouais.
Et nous avons parlé pendant une demi-heure en nous comprenant parfaitement. Mais ça, je ne l'ai pas réalisé sur le moment. C'est après coup que j'ai compris. Et puis donc, ben, j'ai pu lui parler de mes projets, de ma vie, etc. Et au terme de l'entretien, je lui ai demandé si les apparitions, enfin, ce qu'il pensait des apparitions de Garabandal en Espagne et de San Damiano en Italie. Alors, pour les Garabandal, il a émis un jugement plutôt positif, enfin positif, oui, neutre, mais assez positif, enfin bon, il n'avait rien contre. Et pour San Damiano, en revanche, il a été catégorique, il m'a dit Opera Diabolica.
Oui, c'était sans appel.
Oui, œuvre diabolique.
Œuvre du diable.
Œuvre
ouais.
du diable. Mm-hmm. Non pas que le diable y apparaisse, ça ne veut pas dire ça, mais simplement que les entours et toute cette histoire était pas saine, quoi. Bon.
Ouais.
Et voilà, donc je l'ai quitté après.
Vous oubliez une chose essentielle quand même, qui moi m'a interpellé.
Oui.
Vous étiez venu mandaté par
oui,
une amie.
Vrai.
Ah oui, non, attendez.
C'est essentiel, effectivement.
Bah,
en fait, je m'étais rendu chez Padre Pio à la demande d'une de mes amies qui était handicapée physique.
Ouais.
Qui ne pouvait pas y aller,
voilà.
Parce qu'elle était très circonvenue par sa famille, qui était anti-chrétienne farouche.
Mm-hmm.
Et on avait fait un pari à celui qui irait à sa place. Et c'était sur moi que c'était tombé.
Ouais.
Et au moment, et j'avais complètement oublié, évidemment, pourquoi j'étais venu, sous le coup de l'émotion. Et au moment de partir, Padre Pio me dit, et tu diras à Jeannine que je prie avec elle.
Alors que
je ne lui avais absolument pas parlé de la personne.
Oui, même vous, vous n'y pensiez plus.
Mais j'y pensais absolument plus. Donc on peut même pas parler de transmission de pensée, quoi que ce soit.
Ouais.
Et en plus, il me donne son prénom. Et là, j'avoue que j'ai été très impressionné, pas tellement sur le moment, mais c'est après.
Ouais.
Deux ou trois heures après, quand j'y pensais, je me disais, mais j'ai vécu quelque chose de complètement fou.
Ah, pour le moins.
Oui. Et donc, je suis parti après... m'isoler dans des champs d'oliviers et je voulais voir personne, d'autant plus que par un miracle extraordinaire, tout le monde savait que j'avais vu Padre Pio et tout le monde voulait me tomber dessus.
Oula, d'accord.
Oui, alors ça, tout se sait dans ces histoires. Et on se demande comment, mais enfin bon.
Ouais. Ouais.
Et le soir même, en fin d'après-midi, j'ai quitté le lieu alors que je pensais y rester quelques jours parce que je ne supportais plus cette pression, quoi.
Ouais. Alors, revenons à cette rencontre.
Oui.
Sans vous demander ce dont vous avez parlé, parce que c'était personnel, évidemment, avec Padre Pio durant cette demi-heure. Maintenant, avec le recul, pouvez-vous nous décrire l'émotion, le sentiment que vous avez ressenti à ce moment-là, en présence. Alors, que l'on ait la foi ou pas, peu importe, je serais même tenté de dire, c'était un homme d'exception, quand même.
Oui.
Humainement, je veux dire, c'était un homme extraordinaire. Donc, que ressent-on quand on est en contact privilégié avec avec cet homme?
Écoutez, ce que j'ai ressenti pendant l'entretien, c'était une tendresse paternelle extraordinaire. Et j'ai compris, et ça je le sentais pendant l'entretien,
oui, oui, oui,
que pour moi Dieu devait être un père, vraiment, et pas du tout un juge. C'était la paternité de Dieu. C'était extraordinaire. Ça, c'était formidable. Une tendresse, une bonté, une écoute magnifique.
Ouais.
Après, dans les heures qui ont suivi, j'ai réalisé plusieurs choses. D'abord, que je parlais français, qu'il parlait italien, et que nous nous comprenions parfaitement. Ce qui est quand même assez curieux.
Mmh, ouais.
Alors, est-ce que c'est lui qui parlait français? Est-ce que c'est moi qui me suis mis à parler italien? Je n'en sais strictement rien. Peu importe. On s'est compris très très bien.
Ouais.
Et on parlait couramment, enfin, de façon très fluide. Et après, il y a eu, évidemment, cette histoire de Jeannine, qui m'est revenue à l'esprit tout de suite, qui m'avait envoyé là-bas, finalement, et que j'avais complètement oublié.
Oui.
Et c'est lui qui me l'a rappelé, donc il avait vu quelque chose.
Mm.
Et puis, je dois dire aussi qu'il m'a parlé de certains faits de ma vie personnelle qu'il ne pouvait absolument pas connaître. Et que j'étais pratiquement seul à connaître.
Ah oui.
Donc tout ça, ça faisait beaucoup.
Effectivement. Il faut rappeler que Padre Pio a été célèbre pour cette capacité
de pénétration.
De voir dans les gens.
Tout à fait, oui, oui. Et là, je l'ai expérimenté de la façon la plus à la fois éclatante, parce que c'était évident, et en même temps sans très bien m'en rendre compte, parce que c'est après coup que j'ai compris.
Oui. Ça reste encore gravé dans votre mémoire, ce court moment?
Ce moment, non seulement est gravé dans ma mémoire, mais d'abord, il a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. Et puis, en plus, je dois dire que j'y pense tous les jours. Sur mon bureau, j'ai une photo de Padre Pio.
Mm-hmm. Ah oui, vraiment. Enfin, je veux dire, ça a été un moment clé de votre vie d'homme.
Ah, mais absolument, absolument. Ça m'a fait littéralement basculer de mon insouciance d'adolescent à une sorte d'âge adulte dans la foi.
Ouais. Extraordinaire, cette rencontre. J'imagine que ceux qui ont rencontré des gens illustres et bons comme Gandhi ou des gens comme ça ont dû vivre cette
Mère Teresa,
sensation,
ou des
par exemple.
Comme ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait.
Ouais.
Ou Gandhi, évidemment.
Mm-hmm. Ouais.
C'est sûr.
extraordinaire témoignage. Merci. Vous commencez d'ailleurs votre livre avec cette rencontre extraordinaire, fabuleuse. Et à noter quand même, pour revenir un tout petit peu en arrière, lorsque le Padre Pio est passé sur son fauteuil roulant et qu'il a béni plusieurs personnes, vous n'étiez pas seul, évidemment.
Sur
son passage, vous avez été un des rares ou un des seuls à qui il a posé la main sur le front.
On était 34, oui. Ouais. Oui.
Donc, il y avait peut-être cette. Lui savait peut-être qu'il allait vous revoir.
Ça, je n'en sais strictement rien.
Oui.
Mais en tout cas, oui.
Ouais. Très joli moment.
Hein. Oui.
Ah. Joachim Boufflet, vous êtes mon invité sur Sud Radio. On se fait une petite pause et ensuite on va continuer à vous suivre dans votre périple, puisque vous nous faites faire le périple que vous aviez fait en 68 à l'âge insouciant de 20 ans en Italie. Et ensuite, nous allons comprendre le titre de votre livre, Faussaire de Dieu. Mais je voulais commencer vraiment par cette rencontre avec le Padre Pio, parce qu'il est rare de rencontrer des gens qui l'ont approché de manière aussi près et surtout de manière aussi intime. C'est ça qui est vraiment très très intéressant. Joachim Boufflet, une pause et on se retrouve. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit sur Sud Radio.
Joachim Boufflet, l'auteur d'un livre intitulé « Les faussaires de Dieu » est notre invité sur Sud Radio dans « Les aventuriers de l'étrange » ce soir. Sous-titre de ce livre très intéressant, « Phénomène surnaturel, où est le vrai ?» Bonne question. C'est aux éditions Presse de la Renaissance dans la collection « Petite Renaissance ». Et là, il est en livre de poche. Donc, franchement, le prix pas excessif, 12 euros à peine. Pour un peu plus de 600 pages, presque 700 pages d'ailleurs.
Oui. Pages.
Ah, c'est le petit pavé quand même.
C'est un petit pavé, oui.
Ah oui, tout à fait intéressant, mais avec une quantité de cas sur lesquels vous vous êtes penché, vraiment en tant que spécialiste dans ce domaine, vous avez une connaissance de différents cas extraordinaires. On y reviendra d'ailleurs tout au long de cette émission. Mais Joachim Boufflet, j'aimerais que nous parlions maintenant de ce qui avait été un petit peu l'objet de votre voyage en Italie, les apparitions mariales, donc les apparitions de la Vierge, à San Damiano, qui est au nord de l'Italie.
Oui, c'est près de Piacenza, Plaisance, oui.
Voilà. Alors, vous y êtes allé avant d'aller voir le Padre Pio, et vous y êtes retourné ensuite, hein, c'est ça ?
Oui.
Alors, racontez-nous d'abord le contexte de San Damiano et de ses apparitions mariales, pour bien qu'on comprenne dans quel contexte ça se passe et qui est concerné. On parlera de la voyante, évidemment, Rosa Catrini.
Alors, elle a eu des apparitions à partir de 1964, de façon relativement régulière, tous les premiers vendredis du mois, puis tous les vendredis. Elle avait eu auparavant une visite mystérieuse en 1961 d'une femme vêtue de noir qui, précisément, aurait sollicité d'elle une obole pour aller chez Padre Pio et qui l'aurait guérie, parce qu'elle était gravement malade. Mmh. Elle souffrait d'une éventration à la suite de son dernier accouchement.
Oui.
Et donc, elle avait des apparitions. En 68, il commençait à y avoir du monde, mais enfin, ça n'a pas été encore la grande foule. Les grandes foules sont arrivées à partir précisément de 68-70. Et j'ai eu donc l'occasion d'y aller, de rencontrer la voyante, de manger à sa table.
Ah oui, vous avez été verni à plusieurs reprises. Hein,
vraiment. Ah oui, là c'était très bien, mais pas tout de suite. Hein, la rencontre, je l'ai rencontrée l'hiver suivant, en 68, où il y avait très très peu de monde. Et là, comme nous étions très peu de pèlerins, et que j'étais avec un prêtre, elle nous a invités plusieurs fois à manger à sa table.
Ouais.
Et donc on a pu parler très librement. Mm-hmm. Donc c'est une femme très simple, et je pense très sincère, de très bonne foi.
Ouais.
Maintenant qu'elle a vu quelque chose, c'est une autre histoire. J'ai rencontré également sur les lieux l'observateur, comme on l'appelait, de l'évêché, en fait le délégué épiscopal, qui assistait aux apparitions pour en rendre compte, évidemment, à l'évêque, et qui était littéralement honni par les pèlerins.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
Oui.
Et j'ai sympathisé avec obligation qui me fait respecter le clergé, quel qu'il soit. Et je suis allé le saluer tout de suite quand je l'ai vu et je me suis présenté, etc. Bon. Et il a été très surpris parce que j'étais un des rarissimes pèlerins à être, je dirais, sympathique avec lui.
Oui, le seul même.
Pratiquement le seul,
oui. Oui, complètement.
Et du coup, il m'a accordé sa confiance au fur et à mesure de nos rencontres et j'ai pu pénétrer à San Damiano, donc des deux côtés, du côté de la voyante, si je puis dire, et du côté aussi de l'autorité épiscopale, puisque à plusieurs reprises ensuite, ce prêtre, donc Campana, m'a invité à assister aux séances d'études sur San Damiano, la commission d'études. Donc c'était très très intéressant comme expérience.
Alors, revenons sur le départ des apparitions, puisque vous en avez parlé, évidemment, avec la voyante. La voyante, c'est comme ça que on qualifie la personne qui voit l'apparition.
Tout à fait,
parce
on
que
dit
tout
voyante
le monde...
ou visionnaire.
Voilà.
Les gens préfèrent voyante parce qu'ils pensent que visionnaire est péjoratif.
Oui.
Et pourtant, quand on dit qu'on veut voir la voyante, la tireuse de cartes, c'est tout aussi péjoratif, si je peux dire.
Alors, revenons donc à cette voyante, Rosa Catrini. Que vous a-t-elle dit ou que disait-elle avoir vu? Comment ça a commencé? Parce qu'il y avait un lieu précis.
Oui, alors elle disait qu'elle avait entendu une voix l'appeler dans le jardin, qu'elle était sortie, qu'elle avait vu sur le poirier qui se trouvait dans le jardin un globe de feu, une sorte de globe de feu, entouré d'étoiles, qui s'est ouvert et qui a laisser place à une dame d'une très grande beauté, vêtue de blanc, la Vierge Marie, donc, qui lui a donné un premier message pour le monde.
Oui.
Et qui lui a dit qu'elle reviendrait donc tous les vendredis. Et ensuite, ces apparitions donc se sont poursuivies à un rythme régulier et se sont de plus en plus intensifiées, si je puis dire, puisque ensuite c'était non seulement tous les premiers vendredis du mois, mais ensuite tous les vendredis du mois, ensuite les vendredis et les samedis, ensuite tous les jours du mois de mai, ensuite tous les jours du mois d'octobre, etc. Donc ça faisait beaucoup d'apparitions.
Ah oui, liaison directe avec, avec le ciel.
Tout à fait.
Ouais, ouais.
Et puis en plus, Maman Rosa recevait les pèlerins dans son petit oratoire, qui lui confiait des prières, des pensées, des intentions qu'elle-même remettait à la Vierge et auxquelles elle donnait des réponses, un peu comme une sorte d'oracle. Voilà, donc il y avait de plus en plus de monde et il y a eu de très grandes foules, et notamment des pèlerins français.
Ouais. Alors, racontez-nous ce à quoi vous avez assisté, parce que vous avez assisté justement à une de ces apparitions, à plusieurs.
Oui, j'ai assisté à beaucoup d'apparitions. Bon, ça se passait du côté de la voyante, en tout cas de façon extrêmement digne et discrète. Et les apparitions, quand les apparitions étaient publiques, donc... qu'elle venait, ensuite il lui a été demandé de ne plus venir au poirier, d'avoir ses apparitions chez elle, elle s'est parfaitement soumise. C'était extrêmement discret, elle n'était pas en extase, c'est une chose certaine, elle était très concentrée, et elle semblait voir quelque chose, effectivement, et elle répétait à haute voix, donc, ce qu'elle pensait ou prétendait ou entendait, j'en sais rien. Et puis donc, elle communiquait des messages.
Oui. Et alors, vous qui avez assisté plusieurs fois à ce rituel, entre guillemets, vous l'observiez de quelle manière? Parce que vous avez la foi, d'une part, et d'autre part, vous avez ce regard que je qualifierais de scientifique, d'observateur, qui vous oblige à une certaine également retenue, à un certain recul pour pouvoir justement observer sans être happé par l'ambiance environnante.
Oui, alors ça, je suis assez peu sensible aux ambiances.
Bon.
C'est déjà une bonne chose.
Pour votre boulot, c'est très bien.
Je suis assez peu sensible aux ambiances. Et puis en plus, j'ai assez horreur des grandes manifestations d'enthousiasme populaire. Mais enfin bon, c'est une question de tempérament. À côté de ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était de la regarder elle, de la regarder se comporter, de la regarder vivre. Et je dois dire que il y a des choses qui m'édifiaient beaucoup. Elle priait, elle était bonne, etc. Il y a d'autres choses qui me déconcertaient. Elle pouvait être très, je dirais, très, très brusque avec des personnes, peut-être par fatigue, par impatience, que sais-je. Et voulais bien y croire, et j'avoue que je ne pouvais pas y croire.
Oui.
Tout en respectant cette femme.
Ah,
et
oui,
et en ayant avec elle des relations au début très cordiales.
Mmh.
Ensuite, on n'a plus pu se voir, il y avait trop de pèlerins, et puis elle ne recevait plus. Mais sur le moment, non, c'était très cordial.
Mmh. Et dans votre analyse, vous l'avez dit tout à fait au début de cette conversation, vous la pensez tout à fait honnête et sincère.
Tout à fait, oui, oui. Ça, absolument. Honnête et sincère, malheureusement, sans doute manipulée. C'était une femme très simple,
oui.
Extrêmement simple, c'était une paysanne.
Mmh,
mmh. Je dirais pas illettrée, mais presque.
Oui.
Et je pense qu'elle a été manipulée et qu'à partir de très vives représentations mentales qui arrivent à toute personne qui prie, le curé en a fait des apparitions, quoi.
Mmh.
Et l'a menée en quelque sorte dans un engrenage dans lequel elle est devenue elle-même la victime de son illusion.
Oui, oui. Joachim Boufflet, nous sommes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange. On découvre avec vous un cas, un dossier d'apparition mariale. Je mets encore des guillemets à apparition mariale, donc qui se sont déroulés à San Damiano, en Italie. Comment dirais-je, la Vierge lui donnait, selon elle, selon oui. La voyante Rosa Catrini, des messages à délivrer au monde.
Oui.
Et quantité de messages, vu le nombre d'apparitions
oui.
Dont vous nous avez parlé.
Oui, oui.
Votre opinion sur ces messages, le contenu de ces messages.
Le contenu, il est pieux, c'est sûr. De la bonne piété populaire, avec ce qui est aussi le cas de ce genre de communication de piété populaire avec beaucoup d'approximations théologiques, avec beaucoup d'images, avec beaucoup de vision baroque, de mise en scène de la Vierge, des saints, des anges. Alors, et les messages eux-mêmes étaient à la fois un rappel élémentaire des vérités de la foi,
mm-hmm.
et en même temps des sortes de digressions très extraordinaire sur les châtiments qui allaient venir, sur l'avenir de l'Église, sur que sais-je.
Oui. Dites-moi, c'est extrêmement humain ce que vous êtes en train de nous dire là. Rien de surnaturel dans le sens noble du terme.
Non. À mon avis, rien de surnaturel dans le sens noble, comme vous dites le terme, rigoureux.
Oui.
À côté de ça, je me dis toujours qu'il y a quand même un élément surnaturel, entre guillemets, c'est que ça développe une atmosphère de prière. Ça, c'est certain, parce que les gens priaient.
Oui.
Ce qui ne les empêchait pas, après, de se comporter comme de parfaits goujats. c'est ce qui me choquait le plus, d'ailleurs.
C'est-à-dire, donnez-nous quelques exemples.
Mais la différence entre le fait que ces gens venaient en pèlerinage, venaient prier, etc., faire une démarche, je dirais de conversion, de repentance, que sais-je, et que dans le quart d'heure qui suivait, parce que vous aviez le malheur de dire que vous n'y croyez pas ou que vous étiez sceptique, ils vous tombaient dessus en vous insultant. La charité n'était pas de mise, là.
Oui, oui, oui.
Alors là, c'était un peu étrange.
Mmh. Et votre conversation avec le Padre Pio,
oui.
Qui a quand même qualifié cette situation d'œuvre diabolique,
oui.
quand même, a dû vous mettre également dans des dispositions particulières.
Oui, parce que d'abord...
D'abord, ça venait pas de n'importe qui.
Oui, ça venait pas de n'importe qui, puis en plus, très naïvement, moi, au départ, Opéra Diabolica, je l'avais pris au pied de la lettre, je me disais, bon, c'est des apparitions du diable,
ouais,
déguisées
ouais.
en Sainte Vierge.
Ouais, ouais.
Et en fait, au fur et à mesure que j'ai fréquenté San Damiano, je me suis aperçu que la Opéra Diabolica, les œuvres diaboliques, c'était en fait le contexte. C'était ce qu'on en avait fait, c'était tout cet entourage.
Expliquez-nous comment est-ce que, si je puis employer un terme très actuel et contemporain, comment est-ce que c'est parti en vrille?
Comment c'est parti?
En vrille.
D'abord, je crois que ça a été remarquablement orchestré, notamment par des prêtres français, dont certains étaient en rupture de ban.
Mm-hmm.
et qui venait en fait se faire refaire une virginité sacerdotale à San Damiano,
ouais.
Et qui venait également se trouver soit des financements par des groupes de fidèles, des choses comme ça, pardon, et se donner une légitimité.
Oui, parce que en plus cette affaire d'apparition a drainé énormément d'argent.
Énormément. Là, je dois aussi préciser une chose, c'est que Rosa Quattrini a été toujours d'une extrême honnêteté et d'un total désintéressement.
Ouais.
Elle n'en a personnellement pas profité.
Mmh.
Ça a été utilisé pour améliorer les lieux, bien sûr, pour les aménager.
Ouais.
Ça a été utilisé ensuite, parce que les sommes étaient colossales, pour commencer la construction d'un complexe de sanctuaires, etc. Mais elle n'a pas... Et puis en plus, je pense aussi que certaines personnes se sont largement servies au passage.
Mmh. Vous citez par exemple une maison d'édition qui a été montée, évidemment, pour, si je puis m'exprimer ainsi, exploiter le filon.
Tout à fait, oui, oui. Mais c'est une maison d'édition qui a été montée dans des circonstances très curieuses, qui existe toujours d'ailleurs, et qui... a été crédité du label de seule autorité ayant la possibilité et la permission de diffuser les messages de San Damiano.
Oui, ils avaient l'exclusivité.
Ils avaient l'exclusivité.
Oui.
Déjà... Et ensuite, ils se sont lancés d'ailleurs dans, comme San Damiano, c'était un peu répétitif et peut-être un peu lassant, il faut bien le dire. Ils se sont lancés aussi dans l'exploitation d'autres apparitions. Ils continuent d'ailleurs, sans aucun discernement, en mélangeant les vraies, les fausses. Et puis, enfin, c'est une littérature, ce que j'appelle une littérature de bazar.
Oui, 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 sans aucune vergogne.
Sans vergogne et sans discernement.
Mmh, mmh. Et quel est le nom de cette maison d'édition? Parce qu'autant qu'on le cite à l'antenne pour s'en méfier.
Ben, c'est l'édition du Parvis, tout simplement, qui font de très bonnes choses et de très mauvaises.
Très bien. Et en ce qui concerne San Damiano, donc, qu'est-ce que c'est devenu maintenant?
Alors, San Damiano, maintenant... Ça s'est ralenti considérablement, d'abord parce que c'est concurrencé par d'autres apparitions actuelles, et puis il y a eu une désaffection parce que la voyante est morte en 1981,
oui.
Mais il y a toujours des groupes de fidèles fervents qui y vont, des pèlerinages sont organisés, l'évêque du lieu a assoupli les positions prises par ses prédécesseurs qui ont condamné les apparitions, il faut le signaler, Et il permet maintenant aux prêtres accompagnateurs des pèlerinages de célébrer dans l'église paroissiale, moyennant l'autorisation du curé.
Oui.
Et il veille, comme c'est le cas dans la plupart de ces cas actuellement, à un accompagnement spirituel minimal, c'est-à-dire que les fidèles qui viennent participent à la vie sacramentelle, etc.
Mmh, mmh, mmh.
Ouais. Enfin, les apparitions ne sont pas reconnues.
Ouais. Quels ont été vos échanges avec ce prêtre observateur avec qui vous êtes devenu ami?
Des échanges ont été extrêmement fructueux pour moi. D'abord parce que il m'a introduit un peu dans, je dirais, ce système et dans toutes ces procédures d'enquête sur les apparitions, etc. Et en même temps, il me parlait très librement de tout ce qui faisait obstacle à la thèse du surnaturel. Et donc, j'avais des conclusions des sessions. Il me citait, par exemple, des contradictions. Il me citait des mensonges de certains adeptes et de certains leaders du lieu, des inventions, etc.
Oui. Oui, oui. Et alors, profitons-en, puisqu'on en est là, Joachim Boufflet, dans Les Aventuriers de l'Étrange, sur Sud Radio, pour que vous nous expliquiez, décortiquiez quel était son rôle, et ensuite, quelle était la procédure d'étude mise en place par l'Épiscopat, justement.
Alors, le rôle de ce prêtre était de se rendre sur le lieu tous les vendredis, donc, et tous les jours d'apparition,
ouais.
Pour observer, prendre des notes... il n'intervenait jamais directement.
J'imagine, oui. Si. De toute façon, sinon il aurait été le pauvre. Oui.
Oui.
Ouais.
Il aurait été
malmené, oui.
Complètement par la foule, oui.
Ouais.
Et ensuite, il faisait un compte-rendu à l'évêque.
Mm-hmm.
Et il y avait une commission qui avait été instituée pour étudier donc les événements. Il faisait le compte-rendu à la commission, mais la commission recevait également des témoignages d'autres personnes, notamment de pèlerins.
Ouais.
Et donc, on confrontait tout ça, et on relevait alors les contradictions, on relevait les points de convergence, on étudiait le contenu théologique des messages pour voir s'ils ne contenaient pas d'erreurs, etc.
Ouais. Et au bout de combien de temps d'études ont-ils fourni leurs conclusions? Et à ce moment-là, ensuite, l'évêque a pris clairement position.
L'évêque avait pris d'abord des mesures disciplinaires, avait demandé aux pèlerins de ne pas s'emballer et aux gens de ne pas venir sur les lieux.
Oui, ce qui était peine perdue, visiblement.
Ce qui était peine perdue. Ensuite, il a pris des mesures contre la voyante elle-même, entre guillemets, dans la mesure où c'était elle qui était au centre de l'affaire, et il lui a demandé de ne plus paraître en public, ce qu'elle a fait, elle a obéi, et de ne plus se présenter comme instrument de la Madone, comme il disait, et donc de ne plus diffuser de messages. Alors elle a obéi sans obéir, c'est-à-dire que elle a accepté de ne plus diffuser les messages, mais elle a quand même protesté du fait qu'elle voyait la Madone. Donc ça, c'était toujours un peu embêtant. Et en fait, on peut pas aller contre sa conscience, évidemment, mais ce qui lui est reproché, c'était pas tellement de le croire, c'est de le dire.
Ouais.
Il aurait fallu qu'elle rentre dans le silence. Et ça ne l'a pas fait.
Ouais.
Et l'évêque a attendu quand même un certain temps, puisque les déclarations définitives ultimes datent de 70, donc il a attendu quand même 6 ans.
Ouais, ouais, ouais. Et la maison d'édition qui avait l'exclusivité de la diffusion de ces messages, n'ayant plus le droit de publier ce que la Madone était censée dire à cette voyante, Rosa Catrini, ont publié tous les messages de la Madone antérieurs à 70.
Tout à fait.
Bonne idée, comme ça, bon, c'était...
Oui, oui, ben, il y avait un fonds considérable, donc on pouvait en profiter.
Oui, complètement, et ils ont
largement profité. Alors, entre le récit des grâces reçues par les pèlerins sur le lieu, ça faisait déjà la moitié de leur... de leur journal.
Ouais. Et est-ce qu'il y a eu, comme vous venez de le dire, des grâces, parce que ça aussi a été sûrement investigué et étudié par l'Église?
Tout à fait, oui. Alors, il y a eu... Beaucoup de guérisons, de conversions ont été signalées. Bon, sur le plan des guérisons, je crois qu'aucun dossier solide n'a pu être constitué. Et sur le plan des conversions, ça, c'est vraiment du ressort intime de chaque personne. Mais ce que je voudrais signaler tout de suite, ce n'est pas parce qu'une apparition est fausse qu'il ne peut pas y avoir de grâce, parce que la foi n'est pas liée, la grâce n'est pas liée du tout au fait de l'apparition, mais à la foi des personnes.
Ouais.
C'est très différent.
Et
déjà en 1944, il y avait eu toujours dans le nord de l'Italie des apparitions qui ont été déclarées fausses par l'évêque de l'époque.
Ouais.
Et l'évêque a eu cette très belle formule, nous ne nions pas que la Vierge Marie invoquée avec confiance par les croyants ait pu répandre, indépendamment des apparitions, ses grâces sur ce lieu. Voilà. Au moins, c'est clair.
Oui. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que des miracles, entre guillemets, ou des grâces peuvent être réalisées tout en sachant que les apparitions sont fausses, et même
Bien
si
sûr.
Elles sont prouvées comme étant fausses.
Bien sûr. Mais c'est le cas également pour... vous savez, c'était le cas pour les fausses reliques. Hein.
Oui.
Et des gens étaient guéris au Moyen-Âge par des fausses reliques. Bon, ben... c'était pas les reliques qui les guérissaient, c'était leur démarche de foi.
Ouais. C'est un axiome intéressant quand même déjà.
Ben oui, mais je crois qu'il est fondamental.
Ah mais, tout à fait, c'est pour ça que je me permets d'insister sur ce point. Effectivement, ça c'est fondamental.
Tout à fait.
Donc, on peut avoir des grâces ou vivre un miracle ou des instants extraordinaires. Peu importe le lieu où l'on est, il suffit entre guillemets, d'avoir la foi.
Mais exactement.
D'y croire, quoi.
Mais oui, c'est la parole du Christ à la femme qui guérit en le touchant. Va, ma fille, ta foi t'a sauvée.
Ouais, ouais, ouais.
Il dit pas, c'est pas, tu n'as pas été guéri parce que tu m'as touché, mais ta foi.
Oui, oui.
Ouais,
ouais. Alors, Joachim Boufflet, vous êtes allé à San Damiano, mais également il y a un autre lieu que vous avez visité où il y avait des apparitions. Lequel?
Ouais, j'en ai visité plusieurs.
Là, on va faire une première pause et on va revenir avec vous sur l'étude de cas que vous vous présentez. Et puis surtout, il y a une chose très très intéressante, parce que ça aussi c'est le centre du livre. Vous avez essayé de comprendre les mécanismes qui se passaient, alors des mécanismes psychiques, oui. psychologiques, qui font que une personne dit avoir vécu une apparition. Et cette personne, même si elle sait qu'elle ment, peut être sincère et honnête.
Tout à fait.
Là, on est vraiment sur le fil du rasoir.
Ah ben, exactement.
Et c'est là où c'est justement intéressant, et ça peut permettre de comprendre également certains témoignages, je dirais, même dans le monde du paranormal.
Mais
c'est
oui.
là où votre livre a ce côté universel, parce qu'il touche à l'humain, bien entendu. Vous restez avec nous, Joachim Boufflet. Une pause et on se retrouve tout de suite.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Les faussaires de Dieu, enfin non, j'ai dit les, j'ai rajouté l'article, mais il n'y est pas. Faussaires de Dieu, un livre publié en poche, en format poche, aux éditions Presse de la Renaissance, dans la collection Petite Renaissance, par Joachim Boufflet, qui est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio, avec ce sous-titre, Phénomène surnaturel. Où est le vrai? Alors, Joachim Boufflet, vous nous avez cité San Damiano, dont on est d'accord sur le fait que les apparitions mariales de la Vierge Marie sont à remettre en cause. Enfin, on a de forts doutes. Vous pensez qu'il n'y en a jamais eu, ou qu'elle a vécu une chose une fois et qu'ensuite la voyante Rosa Catrini s'est enfermée elle-même dans cette espèce de circuit fermé où il n'y a vraisemblablement jamais eu d'apparition?
Ça, je n'en sais strictement rien. Mais il est possible qu'elle ait eu, comme je le disais, non pas des apparitions, mais des projections mentales, vous savez.
Oui. Mm-hmm.
Quand on réfléchit sur quelque chose, on se fait des images.
Bien sûr.
Ou alors elle a pu avoir un rêve éveillé, que sais-je.
Mm-hmm.
Et à partir de là, elle a été prise dans un engrenage, mais je vous dis, poussée certainement par son entourage.
Mm. Mais... comment, parce que vous avez discuté avec elle, vous avez mangé plusieurs fois à sa table, vous nous avez dit elle est honnête, elle était honnête et sincère, donc ça veut dire qu'elle s'est construit elle-même un univers dans lequel elle s'est enfermée.
Tout à fait.
Puisque elle délivrait des messages qui étaient censés venir de la Vierge, donc
oui,
ces
oui,
messages
oui.
venaient d'elle.
Oui, venaient de son subconscient, venaient
ouais.
d'elle. Venait du fruit de ses méditations, vous savez, c'est ce que Saint Jean de la Croix appelle les paroles successives, hein. C'est-à-dire qu'une personne fait les questions et les réponses dans sa prière, et puis s'imagine en fin de compte que les réponses viennent de Dieu.
Oui. Mmh. Alors, parlons d'un cas que j'ai relevé, page 189, pour
oui.
être précis,
oui.
À la Talaudière, c'était du côté
ah, oui.
de Saint-Étienne. Hein
oui, 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 en France, ça, oui.
Voilà, tout à fait, pour revenir en France. Vous citez un cas d'ailleurs aussi qui s'est passé à Talence,
oui.
à côté de Bordeaux. Alors, commençons par la Talaudière, parce que j'ai trouvé ce cas tout à fait intéressant.
Oui.
Alors, racontez-nous.
Alors, à la Talaudière, une adolescente...
C'est contemporain, 1982.
Ah,
ben,
oui, c'était en 82, oui.
Voilà.
Ça a été repris beaucoup par la presse de l'époque, d'ailleurs.
Mmh, ouais.
Une adolescente, Blandine, affirmait avoir des visions, des apparitions de la Vierge, dans sa cuisine, puis dans
ouais.
le jardin,
mmh.
et avait annoncé, donc, qu'elle aurait une apparition publique, la dernière, 31e, je crois, et qu'il y aurait un miracle. Bon. Et elle était dans le jardin, recueillie, il y avait de la foule, il n'y a pas eu de miracle, évidemment. Elle a prié beaucoup, elle a reçu des malades, s'entretenu avec elle, enfin bon, avec eux. C'était plutôt pieux aussi,
mm-hmm.
mais malheureusement, c'était un peu la même ambiance qu'à San Damiano. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de personnes là-bas que j'avais rencontrées à San Damiano.
Oui, ça, je l'ai noté.
Parce que les personnes courent d'apparition en apparition.
Oui, c'est vrai, oui, 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 oui,
oui. Oui. Et en fait, la petite à mon avis, s'illusionnait complètement. Elle était aussi dans des circonstances très particulières. Je crois qu'elle n'était pas très appréciée à l'école. Son père était aveugle.
Il était mineur de jour et il est devenu aveugle.
C'est ça.
Ouais.
Et elle avait une relation, je dirais, quasi-fusionnelle avec lui. Elle était un peu ses yeux, d'une certaine façon. Et là, c'était beaucoup plus le résultat d'une relation père-fille qui se formulait à travers une expérience qu'ils étaient seuls à partager.
Mmh. Et vous avez essayé de décortiquer le processus qui avait amené donc cette adolescente à dire qu'elle avait vu la Vierge, mais elle aussi, quand elle le disait, elle était sincère.
Ah, complètement, oui. Elle était sincère, oui. Elle était prise dans un engrenage, oui.
Mm-hmm.
Elle était sincère. Et puis d'ailleurs, je crois qu'elle en est ressortie très très blessée de cette expérience.
J'imagine, puisque évidemment, miracle, il n'y a pas eu lieu.
Oui.
Et ensuite...
Les apparitions ont été condamnées par l'évêque.
Oui.
Et puis, elle a perdu toute crédibilité auprès des pèlerins.
Mmh.
Et puis maintenant, on n'en parle absolument plus.
Elle est revenue, elle est retournée dans l'anonymat.
Complètement, oui.
Et j'imagine que avoir fait tout ce ramdam et revenir dans l'anonymat quand on habite un lieu comme la Talaudière où tout le monde doit connaître tout le monde, ça ne doit pas être évident à vivre non plus.
Je pense qu'elle a quitté la région d'ailleurs, autant que je sache, oui.
Et vous relevez comme ça beaucoup de cas de ce type.
Mais oui. Parce que très souvent, il y a une sorte de dépassement du voyant par les phénomènes qu'il a générés. Il devient en quelque sorte prisonnier de ce qu'il a engendré. Et il faut qu'il réponde, en fait. Il faut qu'il réponde à une demande qui le dépasse, qu'il a créée, qui le dépasse. Et donc, il y a une sorte de surenchère et d'engrenage. Et pour peu que la personne soit un peu fragile psychologiquement ou qu'elle soit même névrotique, ça peut arriver... Eh bien, l'engrenage se referme sur elle.
Oui. Et alors là, pour que je vous ai demandé de que l'on parle de ce petit cas entre guillemets, parce que le processus a l'air d'être un processus très classique. Elle en a parlé d'abord tout à fait dans son entourage.
Oui, oui, oui.
De la première vision.
Oui.
Et très rapidement, ça a fait un véritable appel d'air. Quoi.
Mais c'est ça. Ça fait boule de neige. Et puis, c'est très curieux parce qu'en fait, il y a une sorte de confidentialité qui n'en est pas une. Les personnes disent privément ce qu'elles ont vécu avec le secret espoir que ça soit rendu public. Soit pour qu'on les détrompe, soit au contraire pour se mettre en valeur. Et là, le problème avec Blandine, c'est que ça a été rendu public, je dirais presque à son corps défendant. Et puis ensuite, elle n'a pas eu le courage de revenir sur ce qu'elle avait dit, quoi.
Ben, ça doit être impossible à faire.
Mais c'est très difficile, oui. C'est pour ça que quand on me parle de fausse mystique ou de fausse apparition, je suis beaucoup plus réservé. Enfin, je dis, c'est trop péjoratif. Il faut quand même tenir compte de la fragilité psychologique des personnes, il faut tenir compte de leurs problèmes, il faut tenir compte des événements extérieurs qui les dépassent souvent, et il faut les regarder avec beaucoup plus de compassion que de condamnation.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là, le mécanisme est très clair. Ça a commencé à se savoir, et tout de suite après, donc elle a eu la pression de ceux qui voulaient que ce soit vrai.
Tout à fait.
C'est ça, hein ?
Oui, oui, exactement.
Et cette pression n'a fait que enfler au fur et à mesure.
Oui.
Vous décrivez d'ailleurs la foule autour d'elle,
oui.
Avec appareil photo au point, caméra. Enfin, je veux dire, c'est une pression énorme pour quelqu'un qui vivait dans l'anonymat jusque-là.
Mais bien sûr.
Donc psychologiquement, impossible à tenir.
C'est impossible à gérer, oui.
sauf si les apparitions sont vraies, auquel cas elle est soutenue et elle est confortée.
Ah oui, sauf si les apparitions sont authentiques, et alors là il y a des soutiens absolument étonnants, puisque une des grandes vertus précisément des apparitions authentiques, c'est la vertu de force.
Oui.
Les voyants sont des personnes fortes, surnaturellement en tout cas, et psychologiquement.
Oui, oui, oui.
Quand on pense aux petits voyants de Fatima, par exemple, c'est assez extraordinaire. C'est des gamins.
Vous faites également, vous parlez du cas de, je crois que c'était le, si je me souviens bien dans votre livre, le plus jeune des voyants à Medjugorje.
Oui, Yakov. Oui.
Yakov.
Oui.
Racontez-nous son cas. Parce que là aussi, il y a un cas psychologique type intéressant.
Oui. Alors, les apparitions de Medjugorje sont assez intéressantes parce qu'elles concernent un groupe de voyants. Donc, il n'y a plus un seul ou une seule voyante, il y a un groupe de voyants. Ce sont tous des adolescents, sauf Yakov, qui est un enfant, un gamin, qui a 10 ans à l'époque, qui est certainement, qui est très lié à l'une des adolescentes qu'il voit, Vishka, qui est sa marraine, et qui est sous influence d'une certaine façon. Et en fait, je crois que chez lui s'est passé un phénomène de mimétisme. Il a voulu voir ce qu'elle prétendait voir. Et donc, il a abondé dans son sens.
Il voulait absolument faire partie de l'aventure, ne pas être celui qui
est
laissé
pour compte. Mais exactement, il ne fallait pas qu'il reste sur le chemin, quoi.
Ouais.
Et là aussi, il y a eu, évidemment, Pierre Medjugorje, une amplification énorme, une amplification énorme, bien sûr. Et il y a eu aussi un phénomène, de, je dirais, à la fois de contagion, de mimétisme, et puis de surenchère.
Medjugorje, vous l'analysez comment, vous ?
Oh, c'est très complexe, Medjugorje. non, c'est vrai, c'est vraiment très très complexe. Je viens d'ailleurs de sortir un bouquin là-dessus, sur les 10 premiers jours, pour montrer la complexité du cas.
Ouais.
Je pense, alors là, je m'aventure peut-être, mais c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'il y a eu quelque chose au départ.
Oui. Alors, rappelons, Medjugorje, c'est en Bosnie-Herzégovine.
Bosnie-Herzégovine, oui, c'était à l'époque la Yougoslavie, puisque le pays n'avait pas encore éclaté.
Oui. Nous sommes en quelle année
Nous sommes en 81.
Voilà.
En juin 81, 24. Deux adolescentes sont parties en dehors du village pour aller fumer une cigarette en cachette et écouter de la musique.
Oui.
Bon, ça, comme tout. Toutes ces adolescentes.
Normal.
Il n'y a pas de mal à ça.
Non.
Et reviennent en disant qu'elles ont vu la Sainte Vierge. Alors évidemment, on se moque un peu d'elles. Elles reviennent avec d'autres qui, à leur tour, voient. Enfin, je résume.
Oui.
Et notamment le petit Yakov, le gamin. Elles ont toutes entre 14 et 17 ans. Et un garçon de 16 ans. Je pense que les deux premières ont vécu quelque chose. Quoi ? Je n'en sais rien. Ensuite, il y a eu là encore un phénomène d'émulation et de surenchère. Et je pense également qu'il y en a certains qui n'ont absolument rien vu, qui le savent très bien, mais qui ont voulu être dans la course. Et donc, on aurait affaire à, mettons, trois groupes de voyants ou de visionnaires. Certains qui auraient vu, certains qui n'auraient rien vu, mais qui font comme s'ils voyaient. Et puis Yakov, lui, qui a dû se persuader qu'il voyait.
Oui. C'est quand même là, vous êtes en train de disséquer donc ces apparitions à Medjugorje, qui sont, si on en croit le site internet et tout le battage qui est fait autour, qui sont régulières encore de nos jours.
Oui, alors ça, je n'y crois absolument plus, en revanche. Pour une raison très simple, c'est que le 30 juin 81, la Vierge a dit qu'elle apparaîtrait jusqu'au 3 juillet, que le 3 juillet, il y a eu une apparition, effectivement, qui a été considérée par les témoins, par certains témoins, comme la dernière, puisque les enfants ont dit que c'était la dernière fois, à ce moment-là, et que ça continue après, le 3 juillet. Donc, à partir du 3 juillet 81, pour moi, il n'y a plus d'apparition à personne.
Ouais. Et pourtant, des messages sont toujours délivrés.
Tout à fait.
Alors, que doit-on en penser ?
Là encore, un phénomène de surenchère, probablement pour une certaine part d'entre eux, un phénomène de fraude, je n'hésite pas à le dire.
Oui.
Et pour les autres, un phénomène d'illusion. pour l'une d'elles au moins, pour deux d'entre elles au moins, un phénomène purement psychologique de poursuite des apparitions après les apparitions, c'est-à-dire que ils vivent une expérience qui est leur monde propre à eux, effectivement, mais qui n'a plus rien à voir avec des apparitions, même s'ils le croient.
Ouais. Donc là, ça relève de la pathologie psychologique que plus que du surnaturel réel.
Oui, je dirais pas pathologie parce que le terme peut être péjoratif, enfin, en tout cas
fort,
pour,
ouais,
pour les auditeurs.
Hein. On revient toujours au même cas type, même quand elles disent avoir vu quelque chose, si on leur fait passer un test pour comment s'appelle cette machine là qui
oui, détecteur de
voilà,
de
détecteur de mensonges, elles sont sincères.
Mais absolument. Absolument. Sauf je dis peut-être deux d'entre eux.
Oui.
Sauf peut-être deux d'entre eux.
Mmh. Qui eux fraudent puisque vous avez employé,
oui,
ce terme.
Absolument. Oui, oui.
Sciemment.
Sciemment.
Cela dit, avec parce que Medjugorje maintenant, c'est quelque chose de colossal.
Ah mais absolument. Mais c'est aussi colossal financièrement, c'est colossal avec des intérêts matériels, c'est colossal dans la désobéissance systématique à l'évêque du lieu. Enfin, c'est colossal en toutes choses, quoi.
Oui.
Et en fait, ça a été terriblement médiatisé, ce qui n'a pas arrangé les choses.
Mmh. C'est aussi important comme lieu de pèlerinage que Lourdes, pour faire une comparaison ?
Non, quand même pas.
Ouais.
Mais enfin, il y a beaucoup de monde.
Oui, oui, oui.
C'est certainement un des sites d'apparition qui attire le plus de monde.
Mmh. Mais qu'est-ce que ça, cela vous inspire finalement que de voir, de constater que depuis des années, il ne se passe plus rien vraisemblablement là-bas, plus rien de surnaturel par rapport,
oui,
à la foi, j'entends,
oui,
et que finalement les messages délivrés ne sont que le fruit soit de fraudeurs, soit de gens qui se sont enfermés dans un système psychologique.
Non, les messages délivrés ne viennent que d'une des personnes.
Oui.
Et la personne qui les délivre ne fait pas partie des deux que je qualifie de fraudeurs.
D'accord.
Donc déjà.
Oui. Bon, d'accord. Admettons, ça donne,
voilà,
une nuance.
Et c'est une grosse nuance.
Oui, 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 tout à fait.
Parce que je pense que la personne qui délivre les messages est convaincue de voir quelque chose encore.
Mm-hmm.
Ce que j'appelle son expérience personnelle.
Oui, oui, oui. Mais alors donc, que dire à ceux et celles qui nous écoutent? N'y allez pas, allez-y si vous voulez voir, mais enfin.
Mais moi, je leur répondrai ce que dit simplement l'Église, la Congrégation pour la doctrine de la foi en l'occurrence. Les pèlerinages ne sont pas autorisés dès lors qu'on tient Medjugorje pour des manifestations surnaturelles.
Mm-hmm.
Dès lors qu'on croit aux apparitions et qu'on y va parce qu'on pense que ce sont des apparitions, on n'a pas le droit d'y aller.
Ouais.
Voilà.
Donc, oui, la position de l'Église est
un
peu plus claire.
Est très clair, très très clair.
Mmh. Ouais, 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 ouais. Parlez-nous, Joachim Boufflet, d'un cas que vous trouvez très très intéressant, que vous avez enquêté également, évidemment, toujours dans ce même cadre d'apparition mariale. Parce qu'après, on parlera d'autres cas que vous avez investigués, au Québec notamment, que j'ai trouvé très intéressant. On parlera de la Vierge avec les taches de purin, etc. Enfin,
oui,
ça, ce sont des cas qui peuvent prêter à sourire, mais qui montrent la fragilité de l'être humain face à ce genre de phénomène.
Tout à fait, oui.
Un cas que vous trouvez intéressant.
Un cas que je trouve intéressant.
Mm-hmm.
N'importe lequel.
Ah oui, c'est celui de... à votre convenance.
À ma convenance, écoutez, ben, je vais vous parler d'Île Bouchard, tout simplement.
Ouais.
C'est en France.
Mm-hmm.
Ça s'est passé en 1947. Ça a été des apparitions brèves, sobres, à quatre petites filles. Il n'y a pas eu de phénomène extraordinaire. Elles se sont jamais contredites, elles sont très sincères.
Mmh. Dans quelle couche socio-culturelle s'est passé ces apparitions?
Ben, c'était des petites filles du village, qui est une petite ville maintenant, du village. Des petites filles très simples, des écolières, qui,
ouais,
étaient allées prier pour la France à l'église à partir du moment où c'était en 47 au moment des grèves,
ouais,
et de toute l'agitation sociale en France.
Qui suivait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, oui.
Oui.
Mm-hmm.
Et elles sont allées prier parce qu'elles étaient à l'école religieuse, et les religieuses qui leur avaient demandé, comme c'était la fête de l'Immaculée Conception, de prier la Vierge pour la France, qu'elles avaient grand besoin, enfin, pour la France. dans l'église de leur apparaître, dans l'église paroissiale, une dame, une belle dame, qui leur a demandé, qui leur a délivré des paroles extrêmement simples, très basiques, je dirais, et de prière, faire prier les enfants. Et les apparitions ensuite ont duré une semaine, enfin un peu plus d'une semaine, se sont arrêtées calmement, doucement, et ça a continué d'attirer les personnes. Les foules sont venues prier, d'abord des petits groupes de pèlerins, puis ensuite des foules de plus en plus importantes. À l'époque, Mgr 23, qui était archevêque de Tours, en 2000, en 1999-2000, a nommé une commission d'enquête, et a, au terme de cette commission d'enquête, parce que les faits ont été en sommeil du côté de l'épiscopat pendant un demi-siècle.
Oui. Et en plus, les trois visionnaires, c'est ça, hein,
quatre,
ils étaient
trois,
les quatre visionnaires, sont peut-être toujours en vie d'ailleurs.
Il y en a trois qui sont en vie. Et une quatrième qui est décédée.
Oui.
Et donc, le Mgr 23 a reconnu le culte en 2000 à Notre-Dame de la Prière, et l'île Bouchard est devenue un lieu de pèlerinage normalement fréquenté, en toute légitimité, si je puis dire, et je pense que ces apparitions sont authentiques. Enfin, pour moi, ça ne fait aucun doute. Et puis, en plus, c'est intéressant parce que cette année, on fête le 60e anniversaire.
Oui. Et où est-ce exactement?
Alors, c'est à côté de Tours.
Mais, question à laquelle vous allez peut-être pas pouvoir répondre, mais je vous la pose quand même. Pourquoi est-ce que la Vierge est apparue là?
Pourquoi elle s'impose? Pourquoi?
Mais,
pourquoi est-elle apparue à Lourdes aussi?
Oui.
Je crois que là, vous savez, il y a une chose que je dis toujours, en matière de surnaturel et d'apparition, il y a une seule question qu'il ne faut jamais poser, c'est le pourquoi. Il faut prendre exemple sur la Vierge, à l'Annonciation, elle n'a jamais demandé pourquoi suis-je la mère de Dieu, pourquoi suis-je appelée à devenir la mère de Dieu. Elle a simplement demandé comment cela se fera-t-il. Alors qu'on pose toutes sortes de comment, d'accord, mais de pourquoi, non.
Très bien. Alors, autre question. Dans les différents cas que vous avez investigués, que vous avez enquêtés, et il y en a beaucoup, vous avez, comment dire, je vais employer un terme propre à la police ou à la criminologie, fait un portrait robot de l'apparition mariale. Il y a des constantes. Alors, il y a évidemment... quand on dit ça, je dirais la croyance populaire qui fait que la Vierge Marie est une femme, pas très âgée, c'est pas une vieille dame, c'est une belle dame. Elle a le manteau bleu, ça c'est son symbole.
Pas toujours. Hein. Ah. Vous savez, la garde-robe du ciel est très fournie.
Très bien. Alors, Joachim Boufflet, est-ce que vous avez été tenté, j'imagine, de faire des recoupements?
Des recoupements?
Enfin, un portrait robot, voilà.
Un portrait robot. Écoutez, la première chose, dans une apparition, d'abord, c'est le témoignage du voyant.
Oui.
Quelqu'un dit, j'ai vu la Sainte Vierge. Très bien. Ouais. Alors, on le croit ou on le croit pas. Ensuite, le deuxième aspect, le deuxième élément, je dirais, c'est le contexte. Comment ça se passe? Quelles sont les circonstances, où ça se déroule, etc. Le troisième contexte, c'est la réponse populaire.
Oui, mais est-ce que c'est un critère que l'on peut prendre en compte, puisque même lors de fausses apparitions, il y a toujours cet appel d'air et cette envie d'y croire. Donc,
oui, mais il y a quand même une nécessité d'y faire référence et de le prendre en considération, simplement parce que ça implique des orientations pastorales, déjà.
Oui.
Et parce que, ben, il y a quand même un dicton, vox populi, vox dei,
qui
n'est pas toujours faux.
Oui, pas toujours, mais pas toujours vrai aussi, en sens.
Pas toujours vrai non plus.
Voilà.
Mais enfin bon, il faut le prendre en compte.
Tout à fait.
Et puis ensuite, bon, ben, il y a les messages. Qu'est-ce qu'ils signifient? Comment doit-on les lire, les entendre? Comment doit-on les mettre en application? Est-ce qu'ils sont seulement susceptibles d'être mis en application, etc. Est-ce qu'ils ne contredisent pas la foi?
Mmh.
Et enfin, il y a évidemment le jugement de l'Église.
Oui. Mais je reviens à ma question. Là, vous nous avez dressé le portrait robot d'un phénomène d'apparition.
Oui.
Mais de la personne qui apparaît elle-même, de la Vierge Marie, puisqu'on parle d'elle, oui. Il y a des constantes, j'imagine, ou des bizarreries de temps en temps. Je parle pas de sa taille, parce que là, vous avez relevé des cas. Un cas, par exemple, où la Vierge Marie est apparue, le témoin disait, pas plus haut qu'une bouteille.
Mais oui, ça, c'était une fausse apparition.
Oui, en plus.
Mais à côté de ça, il est certain qu'il y a des apparitions de la Vierge Enfant, par exemple, à Sainte Thérèse d'Avila, notamment.
Mm-hmm.
Et il est question aussi à Lourdes d'une petite jeune fille qui n'était pas très grande.
Oui. Mm.
Mais bon. Non, en général, c'est une belle dame, habillée de façon diverse, toujours décente, mais ça peut être toutes sortes de vêtements.
Mm-hmm. Pas de vêtements contemporains, hein, à noter quand
non,
même.
Non.
Hein, je veux dire, pas une jupe, un pantalon,
non.
Un tailleur, vous voyez, enfin...
Non.
On reste dans l'imagerie, quand même, de l'époque du Christ.
Oui, de la supposée. Enfin, dans la supposée imagerie de l'époque du Christ.
Exact. Mm.
En fait, très souvent, elle apparaît avec une robe droite ou avec une ceinture, des manches longues, quelquefois un manteau, le plus souvent avec un voile, mais pas toujours, quelquefois accompagnée d'anges, quelquefois tenant l'enfant Jésus.
Mm-hmm.
C'est assez variable quand même.
Oui.
Mais toujours très belle, et dans une grande lumière.
Mm. Ça, la lumière et la beauté, qui n'est pas forcément une beauté physique d'ailleurs, comme une beauté qui irradie. Hein.
C'est une beauté intérieure qui se manifeste dans les traits, dans les yeux, dans le regard.
Mm-hmm.
Oui.
Ouais. Et est-ce que, à contrario, il y a eu des apparitions mariales, donc concernant la Vierge Marie, dont vous pensez, vous avez des raisons de penser qu'elles sont authentiques, mais où il y a eu, je ne sais pas moi, dans le vêtement, dans ce qu'elle a dit, quelque chose de tout à fait anachronique, voire même de contraire au dogme de l'Église?
Non. Ça, certainement pas.
C'est une réponse diplomatique ou c'est
l'historien
qui parle?
Non, historique et catégorique.
Mm-hmm.
Non.
Ouais.
Et surtout, je crois qu'un des grands critères, je dirais subjectif hein, cette fois,
mm-hmm.
de l'authenticité d'une apparition, c'est que toutes les apparitions qui prophétisent des châtiments, des drames, des guerres, la fin de l'Église, la fin du monde, etc., ne peuvent pas venir de la Sainte Vierge.
Pourquoi ?
Parce que Marie est une mère pleine de bonté. Elle ne vient pas pour effrayer ses enfants, mais pour les tourner vers le Christ.
Mm-hmm. Donc, tous le tenant de discours comme ça, apocalyptique, entre guillemets, sont à prendre avec extrêmement de prudence.
Avec beaucoup de prudence. Il peut y avoir quelques éléments apocalyptiques dans des apparitions authentiques. On en a le cas, soit à Fatima, soit à la Salette, par exemple.
Mm-hmm.
Mais c'est à prendre avec prudence. Il faut les interpréter.
Ce sont des métaphores, on est bien d'accord.
Ce sont des métaphores le plus souvent.
Mm-hmm.
Et puis surtout, ça ne fait pas l'essentiel du message. Alors que vous avez des apparitions, de fausses apparitions, dans lesquelles il n'est question que de châtiments, que de bouleversements, que de guerre, de fin du monde, de fin des temps, de fin de l'Église, que sais-je.
Mm-hmm. Oui, des discours extrêmement effrayants.
Tout à fait. Et quelquefois complètement loufoques, je dirais.
Parmi les loufoques, il y en a un qui vous revient en mémoire?
Mais écoutez, il y en a un qui me revient en mémoire de façon très précise à cause de ce que vous voyez, disait le visionnaire, c'est que à un moment, la Vierge lui aurait dit...
Les visionnaires de Medjugorje, là où
Non, pas de Medjugorje, non. C'est une autre, un autre cas en Belgique, où la Vierge disait qu'il y aurait des insectes géants qui viendraient manger les hommes. Bon ben, je regrette. Non, c'est pas possible.
Là, on essaye de calmer gentiment le monsieur.
Tout à fait, oui. Et on lui dit d'aller se rhabiller, si je veux dire.
Oui, évidemment. Mais ce genre de transmission, entre guillemets, de pseudo-messages de la Vierge, crée le même appel d'air, il y a des oreilles pour l'entendre et y croire,
où
les gens gardent quand même leur un certain recul, un minimum de recul, je dirais.
Malheureusement, je crois que l'être humain, de ce côté, est assez fragile. Et que, surtout dans des périodes d'incertitude et de troubles, il est prêt à écouter n'importe quel discours. Dès lors qu'on lui dit que ça vient de Dieu ou de la Vierge. Ou... Et on arrive à des aberrations. Et ça crée quelquefois d'ailleurs même des mouvements sectaires. Tout récemment, vous avez entendu certainement parler de ce qui s'est passé à l'île de la Réunion avec l'enlèvement de ce garçon.
Oui.
Ça venait d'une apparition de la Vierge.
Exact. Exact. Donc, que l'on peut considérer comme fausse au départ.
Ah ben complètement, oui, oui. Complètement.
Oui, oui, oui. Oui, et ça en est arrivé à des objections, enfin, que l'on connaît.
Mais tout à fait. Alors, quand il y a des dérives pareilles, c'est dramatique, déjà pour les personnes qui en sont victimes, et puis surtout ça montre la crédulité, et puis, je dirais, l'aveuglement des suiveurs.
Ouais. Joachim Boufflet, une pause à nouveau on va ensuite parler de quelques cas également, enfin quelques, vous en avez recensé beaucoup évidemment, des cas que vous avez recensés, notamment j'en ai relevé quelques-uns au Québec. Vous avez appelé ça la fée électricité.
Oui.
Également des tâches sur une maison.
En Italie, oui.
En Italie. Et là, les pauvres propriétaires, Battisti, je crois, hein, c'est ça?
Oui, les Battisti.
Les pauvres propriétaires, mais étaient navrés de ce qui leur arrivait.
Mais oui.
C'était à leur corps défendant.
Tout à fait, oui.
On va citer ces cas, dans quelques minutes sur Sud Radio. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Les faussaires de Dieu, décidément, je mets toujours un article devant. Excusez-moi, hein, Joachim Boufflet,
oui,
c'est vous qui avez décidé
tout. Tout le monde le met.
Faussaires de Dieu, voilà, c'est le titre exact de votre ouvrage qui vient d'être publié en poche dans la collection Petite Renaissance. L'éditeur, c'est les Presses de la Renaissance. Sous-titre, phénomène surnaturel, pardon, où est le vrai, où vous épluchez, vous décortiquez plusieurs dizaines de cas d'apparition mariale, et vous essayez de nous faire comprendre comment le mécanisme happe comme ça ces pèlerins qui veulent y croire. On en a déjà longuement parlé durant presque 7h30 que nous sommes ensemble sur Sud Radio. Alors je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que s'ils ont été témoins d'apparitions dans le cadre de leur foi, quelle que soit leur foi d'ailleurs, hein, eh bien appelez-nous au 0826 300 300, laissez-moi vos coordonnées dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange, et comme ça on pourra faire une émission avec vos témoignages et avec le concours de Joachim Boufflet, qui pourra nous apporter sa connaissance puisqu'il a investigué plusieurs dizaines, plusieurs centaines de cas. Joachim Boufflet, parlons de cas que vous avez enquêtés, relevés dans votre livre concernant des fausses apparitions. Parlons d'abord de ces tâches sur le mur. On va commencer par la famille Battisti en Italie.
Oui.
Racontez-nous d'abord ce qui leur est arrivé à ces pauvres gens, parce que ils ont souffert, eux.
Ah, eux ont beaucoup souffert, oui.
Oui.
Ils habitent à Sezze Romano, donc c'est une localité près de Rome. Et ils sont des paysans.
Mmh.
Et leur maison est près de la route.
Oui.
Et des personnes déclarent qu'elles ont vu sur le mur de façade, donc vers la route, le visage de la Vierge, le visage de Saint-Joseph, le visage du Christ, etc.
Mm-hmm.
Et évidemment, les pèlerins accourent, enfin les fidèles accourent, le pèlerinage commence à se mettre en branle, et les pauvres baptistes sont submergés par ces gens qui prétendent avoir des apparitions contre le mur de leur maison, alors qu'eux-mêmes ne voient rien. Et ils se taisent, et ils essaient évidemment d'éviter la foule,
de se protéger.
La pression, oui.
Ouais. Mais il y avait vraiment du monde?
Ah ben, il y avait plusieurs personnes, oui, quelques centaines quand même.
Ah oui, oui.
Ah oui, oui, oui.
Oui, oui.
Et finalement, on s'aperçoit que les pseudo-apparitions, ce sont des taches sur le mur.
Oui. Donc il y avait vraiment des taches sur le mur.
Il y avait des taches, mais que les gens interprétaient.
Comme le test de Rochard, quoi.
Absolument.
C'est ces taches d'encre.
Ça, ça a duré pendant 2 semaines, à peu près.
Ah oui, quand même, oui.
Oui, quand même.
Oui.
Et c'était simplement des tâches qui avaient été faites par un camion qui était passé dans une flaque de purin et qui avait projeté du purin sur les murs. Et les gens s'imaginaient que c'était des apparitions. Et puis finalement, au bout de deux semaines, l'automne arrivant, les pluies s'abattant sur la région, la façade a été littéralement lavée et il n'y avait plus rien.
Et les pauvres baptistis ont vécu un enfer pendant 15 jours.
Ah ben, ils ont vécu un enfer pendant 15 jours et puis on racontait n'importe quoi sur eux surtout. On disait par exemple que la pauvre Madame Battisti était allée chercher des haricots dans un champ et qu'elle aurait rempli trois corbeilles de haricots et que revenant à la maison, elle en aurait trouvé 60. Enfin, des choses complètement idiotes.
Donc, enfin, ça, c'est quand même là. Attardons-nous un peu sur ce point parce que c'est valable aussi pour ceux et celles qui pensent avoir vécu ou qui sont, vous savez, le copain du témoin de celui qui était à côté.
Mais voilà, c'est ça.
Et même pour les phénomènes paranormaux. Donc, les gens inventent, brodent, rajoutent, mentent. Vous qualifiez ça comment?
Ah oui, mensonge. Écoutez, élabore. Mentir, c'est faire un procès d'intention. Les gens élaborent à partir d'un fait naturel, des conclusions surnaturelles. Et on rajoute, crée une légende, et on dit que.
Mmh. C'est quand même extrêmement étonnant. Là, prenons le cas de ces paniers de haricots.
Oui.
De 3 à 60.
Oui.
Le cheminement psychologique, ça a été quoi? Quelqu'un qui a dit à l'autre, ah, t'as vu? Enfin, c'est...
Vous voyez, c'est
intéressant à disséquer.
Mais oui, c'est
ça,
très intéressant, mais là encore, on ne connaît jamais l'origine exacte de ce type de rumeur.
Évidemment, oui.
Et ça s'est passé aussi à San Damiano, ça s'est passé... On invente beaucoup de choses.
Donc le témoignage est à prendre,
avec beaucoup de précautions. Avec beaucoup de précautions, parce que, vous savez, une souris en fait une montagne...
Et après, une chaîne de montagne.
Exactement.
Et c'est le Fujiyama ou l'Everest.
Voilà.
Ouais. Alors, bon, là, c'est le cas des baptistis. Heureusement, maintenant, grâce à la pluie, c'est terminé. Ils ont retrouvé leur quiétude.
Ils ont retrouvé leur calme.
Oui. Et alors, l'autre cas que vous avez appelé, que vous avez titré, la fée électricité.
Oui.
Là, on quitte l'Europe.
Au Canada.
Oui, oui, oui. Racontez-nous ce cas-là, qui est très intéressant parce que là, il y a eu une explication intéressante.
Oui, alors là, c'est très intéressant parce que ce sont trois adolescents qui rentrent d'une soirée et qui, près de chez eux, voient une grande lumière sur un arbre entouré de lumière.
Ouais.
Et effectivement, ils le contemplent et puis, assez impressionnés, ils rentrent chez eux et se disent, ils en parlent le lendemain,
ouais.
Et évidemment on se moque d'eux, on dit, bon, est-ce que votre soirée n'a pas été un peu trop arrosée, est-ce que vous étiez bien dans votre état normal, etc. Et dans la journée, quelques personnes vont sur le lieu, regardent l'arbre, absolument rien. Le soir, à la nuit tombée, d'autres personnes viennent, et là, une fois encore, l'arbre est complètement illuminé, et pendant plusieurs jours, les fidèles viennent tous les soirs prier devant cet arbre illuminé, d'autant plus que certaines personnes disent que dans cette lumière, elles voient une silhouette féminine, la Vierge. Et en fait, on aura l'explication quelque temps plus tard, après une enquête, le phénomène est tout ce qu'il y a de plus naturel. Les lumières qui apparaissaient sur l'arbre à la tombée de la nuit venaient d'un réflecteur électrique situé à quelque distance et qui projetait donc sa lumière sur le vieil arbre. Tout simplement.
Ouais.
Donc c'était pas la Sainte Vierge, c'était simplement la fée électricité.
Et ça a créé, là on retrouve comme ces tâches chez les baptistis en Italie,
oui.
Des gens regardant cette lumière y ont vu ce qu'ils voulaient voir.
Ce qu'ils voulaient voir, absolument, une image de la Vierge. Oui,
ouais.
Oui,
oui. Oui, tout simplement.
Enfin, voilà.
Oui, oui. Et alors, il y a un autre cas que j'ai découvert également dans votre livre, c'est cette statue de la Vierge sur une place où les gens l'ont vue bouger alors qu'elle ne bougeait pas.
Assise.
Oui.
Ah là, c'était
parce que là, il y a eu d'abord une batterie de scientifiques qui s'est déplacée,
oui,
et j'ai trouvé l'attitude de l'Église très très saine, qui a finalement réussi dans le calme à découvrir la solution.
Mais oui.
Alors, racontez-nous ce cas-là. Comment est-ce qu'il a démarré?
Alors, c'était Assise en 1948.
Mm-hmm.
C'était sur la façade du monastère Sainte-Claire, si je ne me trompe, enfin sur la façade d'une église, où il y avait une statue de la Vierge, et un soir, une personne qui se promenait a vu la statue bouger. On avait part à d'autres personnes, qui évidemment se sont rassemblées, ont regardé, effectivement, la statue bougeait, pensait-elle, ou croyait-elle, ou... Et on a commencé à prier, des pèlerinages se sont organisés, et l'Église a été extrêmement prudente et en même temps extrêmement nette sur le sujet. L'évêque a institué une commission d'enquête, mais pas seulement une commission d'enquête théologique, puisque c'était une statue qui bougeait, il n'y avait pas de message, donc c'était pas très, très grave, mais surtout une commission scientifique qui a fait appel à toutes les techniques de mesure. Connu à l'époque,
oui.
Et qui a finalement démontré, au bout de plusieurs semaines d'investigation, grâce à toutes sortes de mesures optiques.
Ah oui, ils ont mis des caméras sur pied,
ça.
Ils ont mis des procédés même sismiques pour essayer de comprendre s'il y avait quelque chose qui bougeait.
Oui.
Et ensuite, pour bien faire comprendre, et là je trouve que la démarche est tout à fait intellectuellement louable, ils ont procédé à une expérience pour montrer justement aux gens que quelque chose pouvait bouger sans que ça bouge.
Enfin, absolument, c'était une illusion tout simplement. Et finalement, bon, c'est retombé dans le silence après une enquête en bonne et due forme dont les conclusions scientifiques ont emporté l'adhésion finalement des fidèles.
C'est ce qu'on appelle vraiment un dossier rondement mené et bien mené.
Très bien mené, rapidement mené et calmement mené surtout, je veux dire.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y a pas eu de défense, il n'y a pas eu de... Les gens venaient prier, de prier, et puis c'est tout, l'évêque n'a pas interdit tout de suite, il a dit, on va voir.
Oui.
Et on a vu, mais on va voir, puisqu'elle bouge, eh bien il faut prouver qu'elle bouge scientifiquement.
Tout à fait.
Matériellement. Or, il a été prouvé qu'elle ne bougeait pas, on a réalisé une expérience en laboratoire, on est arrivé aux mêmes conclusions, donc une illusion, et ça a été dit et expliqué, et c'est retombé dans le silence.
Oui. Un très beau cas d'école.
Oui.
Finalement. Joachim Boufflet, à titre de conclusion, parce que après vous allez venir demain à Bordeaux pour une célébration dans la cathédrale de Bordeaux tout à fait particulière.
Oui.
Vous nous expliquerez pourquoi et vous nous raconterez l'histoire de cette femme, Marie-Céline Castan,
oui.
Cette sœur qui est décédée en 1897, donc ça ne date pas d'hier quand même.
Non.
On 110
ans,
exactement. On en parlera tout à l'heure. Qu'en retirez-vous finalement à titre humain et à titre d'historien quand vous avez fini d'écrire le manuscrit de ce livre? Tout ça est profondément humain?
C'est très humain. C'est très humain. En même temps, vous savez, je me dis que on vit dans une époque où les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose, que malheureusement, au lieu de se raccrocher à des valeurs solides, souvent ils se raccrochent à des valeurs illusoires, à l'apparence des choses plutôt qu'à la réalité. Mais à côté de ça, je me dis aussi qu'il y a quand même de très belles choses dans le domaine du surnaturel, parce qu'il y a quand même des apparitions authentiques qui sont très belles. Je pense à des apparitions dont on n'a jamais parlé en Europe pratiquement, qui sont déroulés au Guatemala, à Cuapa, dans les années 80 aussi, en 80 je crois tout simplement.
Oui.
Qui sont reconnus par l'Église maintenant.
Dites-nous en quelques mots, parce que là...
C'était des apparitions à un pauvre, un homme, très simple, très bon, très pieux, qui a vu la Vierge plusieurs fois, qui lui a donné un message très simple de prière, de pénitence et de conversion. Cet homme a témoigné, son témoignage a été jugé crédible par l'autorité locale qui a suivi le cas avec discrétion et attention. Les fruits ont été excellents, il y a eu des miracles. Par ailleurs, cet homme qui avait toujours voulu être prêtre, mais qui n'avait pas pu faire d'études parce qu'il était trop pauvre, a été pris en charge par la communauté ecclésiastique du lieu, a finalement réussi à faire des études, à être prêtre, et il a prodigué un ministère sacerdotal absolument extraordinaire avant de mourir quelques années plus tard, toujours témoin de ces apparitions qui ont été reconnues récemment en 2003.
Mmh. Mais ces apparitions ont eu lieu où, dans quel contexte, ça s'est passé comment, à la campagne, en ville?
Oui, c'était dans la campagne, près d'une petite chapelle plus ou moins désaffectée. Et c'était très simple, je dirais que c'était presque pastoral.
Ouais. Et les miracles, des miracles ont eu lieu sur
oui,
ce...
oui, oui, là il y a eu des miracles de conversion et surtout des miracles de guérison.
Mmh. Et en ce qui concerne les apparitions, elles ont eu lieu à combien de reprises?
7 ou 8 fois, pas plus.
Ouais. Et donc là, ça a été authentifié par l'Église.
Tout à fait, oui.
Mmh. Donc revenons à la conclusion. Il y a cette envie, enfin dans notre période contemporaine, parce que là, vous relatez des cas qui remontent aux années 1800 et quelques, jusqu'à très récemment, d'ailleurs.
Oui.
La preuve, celle-ci que vous venez de citer, l'homme est toujours le même finalement depuis le Moyen Âge,
oui,
ou même
bien
on peut
sûr.
Remonter avant.
Ce n'est pas l'homme qui change, ce sont les circonstances.
Mmh.
L'homme, il est toujours là avec ses faiblesses, ses désirs, ses angoisses, sa grandeur aussi, et puis sa richesse.
Mais quel conseil donner, par exemple, à quelqu'un, peut-être parmi ceux ou celles qui nous écoutent, qui a vécu un phénomène d'apparition mariale et qui n'ose peut-être pas en parler? Qui doit se dire, bon, une, je suis fou, l'autre optique, c'est qu'il s'est peut-être passé quelque chose, que doit-il faire ou penser?
Deux choses. D'abord, il faut savoir si l'apparition s'adresse à lui-même tout seul ou si elle a un message public.
Ouais.
Si c'est pour lui tout seul, c'est très bien. Si c'est pour la personne tout seul, c'est très bien. Elle la garde et puis elle suit ce que l'apparition lui dit.
Ouais.
Éventuellement,
ouais.
Elle en parle
à quelques proches ou à un prêtre.
Proches, oui. Ouais. Et puis voilà, et elle reste dans la discrétion et le silence, et puis elle vit ce que lui demande son apparition. Si c'est le cas de message public, là, il faut impérativement s'adresser à l'autorité ecclésiastique, puisque ça se déroule dans le contexte de l'Église, donc qui implique l'Église obligatoirement. Et donc là, il faut suivre, je dirais, une sorte de procédure, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
On peut pas à la fois prétendre avoir une apparition de la Vierge dans l'Église et puis refuser que l'Église s'en charge.
Mmh. Mais dans ce cas précis, comment ce témoin est accueilli par... parce que au début, j'imagine, le premier réflexe, c'est d'aller voir le curé de la paroisse.
Oui.
L'accueil se fait comment? Les hommes d'Église qui reçoivent ce témoignage sont attentifs, à l'écoute, sont goguenards, ironiques?
Non, non. Contrairement à ce qui est raconté, ils sont rarement goguenards ou ironiques. En général, ils sont bienveillants et prudents.
Ouais.
Et ils demandent une attitude de réflexion et de prudence.
Et surtout de ne pas en faire un tapage pour créer cet appel d'air.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais.
C'est ce que j'appelle la prudence, oui.
Ouais. Donc, je réitère mon appel, si vous avez vécu ce type d'apparition relatif à votre foi, quelle que soit votre foi, encore une fois, vous nous appelez au 0826 300 300. Là, on a parlé, puisque c'est votre spécialité, évidemment, et c'est votre voie également, on a parlé de la foi chrétienne, mais il existe des apparitions également dans d'autres fois, c'est-à-dire dans d'autres religions musulmanes, dans le monde bouddhiste. Vous en avez entendu parler?
Oui, oui, j'en ai entendu parler, et puis... tout à fait plausible, hein. Il n'y a aucune raison que ça n'existe pas.
Bien sûr, bien sûr.
Tout à fait, oui. Et par exemple, dans le mouvement soufi, notamment, dans l'islam, il y a souvent des apparitions.
Ouais. Alors, avant de se quitter, Joachim Boufflet, et de vous retrouver plus tard dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, parlons de ce que vous venez, non pas faire, mais ce à quoi vous venez assister, dimanche, autrement dit demain, à Bordeaux.
Eh bien, je vais assister à la béatification de Marie-Céline Castan, qui était une religieuse clarisse du couvent de Talence, et qui est morte en 1897, un peu, à l'âge d'un peu plus de 20 ans, après très peu de temps donc au monastère, et après avoir édifié ses compagnes par une vie tout à fait remarquable, un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Oui. Elle va être béatifiée, c'est ça?
Oui.
Donc c'est la première étape avant la l'étape suivante est la canonisation,
tout
c'est
à fait.
Ça? D'accord. Donc elle va être déclarée bienheureuse.
Elle va être déclarée bienheureuse, donc à la cathédrale de Bordeaux demain à 16h.
Bien. Alors, il y a bon son chemin de vie, dont j'imagine qu'il a été vertueux.
Oui.
Évidemment. Mais avait-elle une capacité particulière qui fait que, eh bien, son dossier est arrivé au bout, si j'ose dire?
Non, c'est pas pour ça que le dossier est arrivé au bout. Hein. Il est arrivé au bout grâce à ses vertus peu communes.
Oui.
Mais effectivement, elle a présenté dans les derniers mois de sa vie des phénomènes assez étonnants de parfums surnaturels autour d'elle ou dans les endroits où elle passait.
C'est ce qu'on appelle communément l'odeur de sainteté.
Oui, c'est ce qu'on peut dire, oui.
Oui. Et dans quelles circonstances vous avez enquêté sur ce cas précis?
Non, j'ai pas particulièrement enquêté. Je la connais un peu, mais enfin, j'ai pas vraiment enquêté.
Ouais.
Ben, je sais que simplement, ça s'est produit notamment à l'occasion de sa dernière maladie, où elle s'était offerte à Dieu, où elle avait offert ses souffrances à Dieu, et où il émanait d'elle, ou des lieux où elle passait, des odeurs absolument extraordinaires de lys, de roses, enfin de fleurs.
L'odeur de sainteté, c'est ça. C'est un rapport. C'est une odeur végétale plutôt.
Pas nécessairement. Non, on signale des odeurs animales, je dirais, comme le musc, par exemple.
Ouais.
Le musc est une odeur animale.
Ouais.
Et non, ce sont des parfums en général très très agréables et souvent indéfinissables, il faut bien dire.
Et il y a d'autres cas en France, j'imagine que oui, de personnes qui produisaient comme ça cette odeur de sainteté.
Oh oui, je n'en ai pas. Yvonne aimée de Jésus, certainement, oui, ça oui. Marie-Yvonne aimée de Jésus, l'Augustine de Malétroit, qui est morte en 1951,
ouais.
On sait qu'elle produisait des odeurs suaves, et pas seulement ça, elle, c'était tout un répertoire de phénomènes extraordinaires. Il faudrait lui consacrer à elle seule une émission.
Je n'en ai jamais entendu parler, excusez mon ignorance, oui. Marie-Yvonne Jésus, qui était française, donc.
Oui, oui, oui.
De quelle région?
Elle était bretonne, enfin, elle a vécu en Bretagne, à Malétroit, près de Vannes.
Oui. Et quel type de phénomène produisait-elle?
Oh, tout, stigmates, vision, apparition, lévitation, bilocation, enfin, c'est vraiment un panorama étonnant.
Oui. Un padre Pio au féminin, si je peux me permettre.
Oui.
Et vous n'avez pas eu l'occasion de la rencontrer?
Ah ben non, parce que elle est morte quand j'avais 3 ans.
Ah oui, effectivement.
C'était
un peu jeune, oui.
Oui.
Ça aurait été un peu jeune, effectivement. Et son cas a été très largement enquêté?
Ah oui. Oui. Il y a un gros livre sur elle qui est paru, qui est le témoignage de son père spirituel, d'ailleurs, du père Labutte, qui s'appelle « Yvonne aimée de Jésus, ma mère selon l'esprit ».
Oui. Et elle vivait des phénomènes de bilocation?
Oui.
Ça, c'est un des phénomènes les plus troublants, je trouve.
C'est très troublant, mais oui, mais c'est très intéressant. Vous savez, c'est attesté très tôt hein, dans l'histoire de la sainteté en Occident et en Orient, la bilocation. Très, très tôt, c'est un des phénomènes les plus tôt attestés.
Oui. Et elle vivait également les stigmates du Christ, vous avez vous dit, c'est-à-dire les blessures au flanc, au front, à la paume des mains et aux pieds.
Tout à fait, et aux côtés.
Oui. La paume des mains, non pas au poignet, mais à la paume.
À la paume, oui.
Oui. Donc les stigmates tels qu'ils sont représentés et non pas les stigmates réels.
Oui, ça on ne sait pas. Ça on ne sait pas. On ne sait pas dans quel endroit de la main, le Christ a été cloué, si c'est dans la paume ou dans les poignets. Parce que s'il a été soutenu par des cordes, ce qui était quelquefois le cas des supplices de crucifixion, on a très bien vu le clouer dans les paumes.
Oui, parce que certains scientifiques avaient objecté que pour tenir cloué, malheureusement c'est
oui.
un détail sordide et technique,
oui.
sur la croix, il fallait être cloué au poignet, sous peine de tomber. Quoi.
Autrement, les tissus se déchirent, bien sûr, sous le poids du corps,
mm-hmm.
et puis la masse déchire. Quoi.
Oui.
Mais si les bras sont liés à la croix, ce qui arrivait parfois, on le sait, on pouvait très bien clouer dans les paumes, puisque la question du poids du corps ne se posait plus.
Mm-hmm. Donc ça remet en cause l'hypothèse qui, selon certains scientifiques, dirait que les stigmatisés vivaient selon, reproduisaient les stigmates de manière non pas imaginaire, mais
oui.
voilà ce que l'image de l'Église en donnait, mais qui n'était
oui.
pas la réalité.
Oui, ça on ne sait pas.
Mm-hmm.
Je reste extrêmement prudent de ce côté.
Oui, j'imagine. Tant qu'on n'a pas des preuves tout à fait tangibles.
Oui.
Bien. Joachim Boufflet, en tout cas, merci de nous avoir accompagné encore durant ces 2 heures d'émission dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Vous avez, je pense, quelques autres projets dans les cartons qui devraient voir le jour bientôt ?
Ah, ça, je ne sais pas encore.
Comment ça ?
Non.
Vous n'avez pas de livre en route ?
J'en ai un en route, mais je ne sais pas s'il va sortir, on verra.
Oui. Des envies en tous les cas, puisque vous ne voulez pas en parler, par superstition peut-être.
Ah non, non, je ne suis pas du tout superstitieux. Non, c'est simplement parce que je fais une biographie d'une personne qui, elle, n'a présenté strictement aucun phénomène extraordinaire.
Oui.
Et puis parce que j'ai peut-être d'autres projets en cours, mais enfin, l'essentiel n'est pas là pour l'instant.
Bien. Merci en tout cas beaucoup Joachim Boufflet. J'en profite pour rappeler le titre de votre livre. Faussaire de Dieu. Vous avez noté, j'oublie l'article ce coup-ci. Faussaire de Dieu, avec en sous-titre Phénomène surnaturel. Où est le vrai point d'interrogation. C'est en format poche, un livre de 700 pages avec énormément de cas que vous avez relevés, tous aussi intéressants les uns que les autres. Vous décortiquez le mécanisme qui fait que cet appel d'air dont on a parlé souvent, cette envie de croire et qui fait voir, c'est aux éditions donc Presse de la Renaissance, dans la collection Petite Renaissance. Et puis je recommande également votre livre précédent qui est sorti il y a pas longtemps, La Lévitation chez les mystiques, où on a vécu une émission extraordinaire. D'autres cas de lévitation au fait ont été signalés, vous ont été rapportés depuis la publication de ce livre.
Ah oui, beaucoup, oui. Oui.
Décidément.
Vous savez, c'est un domaine qui est constamment en extension.
Moi qui pensais que c'était un phénomène rarissime.
Oui et non, oui, si on tient compte de l'ensemble de la population du globe,
oui.
C'est rarissime, effectivement, mais non. Je dirais que c'est un des schémas classiques de la géographie, quoi.
Oui, mais en parlant de phénomènes récents, enfin qui vous ont été signalés,
oui.
des phénomènes qui ont lieu actuellement ou qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, et quand je dis pas si longtemps que ça, dans l'année qui est passée ou les 2 ans précédentes.
Oui.
Ou quand qui?
Pour l'instant, top secret.
Oh, vous êtes dur là.
Non, réaliste. J'attends de vérifier.
Ce qui est tout à votre honneur, c'est vrai. En Europe, en France ?
En France, notamment.
Très bien. Bon, des cas qui ont lieu actuellement, sur lesquels vous êtes en train d'investiguer ou sur lesquels l'Église est en train de travailler ?
Oui.
Je ne réussirai pas à vous en faire dire plus.
Non.
Très bien. Eh bien, écoutez, je reste avec cette petite frustration, mais vous nous en parlerez quand le cas aura été enquêté.
Tout à fait.
Bon, mais ça risque de prendre quelques années. C'est ça qui est embêtant avec
l'Église. Ah ben oui, c'est ça le problème.
Oui, très bien.
Mais la patience est une vertu.
C'est vrai. Je vous l'accorde. Merci beaucoup, Joachim.
Merci
Bouffier.
À vous.
Je vous souhaite une bonne soirée.
À
et
vous
puis
aussi.
Demain, vous serez dans notre belle région. Vous serez bordelais.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Les aventuriers de l'étrange. 22h minuit sur Sud Radio.
Après donc cette heure trois quarts passée en compagnie de l'historien Joachim Boufflet pour son livre Faussaire de Dieu, et où on a découvert beaucoup de cas d'apparitions mariales fausses, tronquées, dévoyées, et de vraies apparitions, et également il nous a raconté en tout début d'émission sa rencontre tout à fait émouvante et passionnante avec Padre Pio. Nous allons basculer dans un autre domaine et puis être carrément dans l'actualité, parce que ça va se passer demain dimanche. Je suis en compagnie de Nicole Canivinc. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Nicole Canivinc, à titre personnel, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes déjà intervenue dans l'émission Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio, puisque vous avez vécu ce qu'on appelle une NDE, une expérience de mort imminente, et vous avez créé une association. Vous êtes dans quelle région exactement ?
Alors, en fait, je me trouve près de Montpellier.
Vous avez créé donc cette association à côté de Montpellier. Vous donnerez les références pour que ceux ou celles qui ont vécu une expérience de mort imminente ou une sortie hors du corps puissent entrer en contact avec vous s'ils habitent dans cette région. Et vous m'avez envoyé un email pour annoncer la création d'un groupe de partage. Expliquez-nous ce que vous attendez de ce groupe et à quoi est-ce qu'il va servir.
Oui, alors en fait, le groupe de partage, je les ai créés parce que c'est quelque chose, moi, qui m'a terriblement manqué après avoir vécu mon expérience de mort imminente en 2003. Mm-hmm. Et en fait, l'objectif est vraiment très simple et même très basique, je pourrais dire. C'est simplement que les personnes qui ont vécu soit des sorties hors du corps, soit effectivement des expériences de mort imminente, puissent venir en parler, être entendues, écoutées, et sans jugement, sans classement derrière de l'expérience. Donc c'est pour moi une partie importante, parce que je crois vraiment qu'elle favorise aussi l'intégration de l'expérience vécue par la personne, et que j'ai trop entendu aussi récemment dans des entretiens que je peux avoir par téléphone avec des personnes ayant vécu, j'ai trop entendu des choses un peu tristes, où les personnes on leur a dit « oui, vous avez halluciné, ce sont des hallucinations, etc. » Et où même parfois certains ont pu se demander carrément s'ils n'étaient pas devenus fous. Donc c'est quand même très grave comme diagnostic, si je peux dire. Et tout simplement, donc c'est l'objectif, il est vraiment très simple, c'est de partager un temps ensemble et que chaque personne puisse raconter devant d'autres ce qui lui est arrivé.
Oui. Là, ce premier groupe va se réunir pour la première fois, je crois.
Non, c'est le troisième groupe.
C'est le troisième, d'accord.
Oui, en fait, c'est le troisième groupe de partage, mais par contre, chaque groupe ne réunit pas forcément les mêmes personnes.
Oui.
Donc, on peut dire que c'est quand même un nouveau groupe, dans ce sens que voilà, il y a d'autres personnes qui, à un moment donné, se décident à passer le cap et viennent nous rejoindre. Donc, c'est pas toujours le même groupe.
Ça va se passer. Donnez-nous quelques détails pratiques. Alors, où, quand, comment entrer en contact avec vous, tout ça?
Voilà, donc en fait, il faut entrer en contact avec donc notre association, donc qui s'appelle NDE et Intégration. Donc il faut quand même me téléphoner pour parce qu'on ne veut pas dépasser 10 personnes, parce qu'après ça devient un peu long et un peu complexe à gérer. Donc il faut me contacter au 06 22 43 79 01, simplement donc pour s'inscrire. C'est totalement gratuit. Voilà, donc on partage quelques boissons puis des gâteaux, et on prend un temps pour s'écouter. Et donc là, ça va se passer donc dans le nord de Montpellier, à un petit village qui s'appelle Saint-Clément-de-Rivière. Et on a trouvé un petit endroit dans la nature qui est très sympa, où il y a donc table et chaises et des beaux arbres. Et donc voilà, et là ça se passe là, donc dans ce parc, donc à Saint-Clément-de-Rivière.
Oui. Dites-moi, Nicole Canivinc, puisque vous avez déjà partagé cette expérience avec deux autres groupes, j'imagine que déjà faire la démarche de vous appeler pour parler de son expérience doit pas être évidente, mais ça doit susciter beaucoup d'émotions, j'imagine, d'être au sein d'un groupe et de raconter ce qu'on a vécu.
Oui, c'est un moment, très très important, parce que c'est vrai que ça peut faire remonter aussi en grande partie l'émotion vécue pendant l'expérience, et souvent ce sont des émotions très 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 intense d'amour, de paix, de bien-être. Donc oui, c'est vrai que voilà, ça peut être accompagné éventuellement de larmes parce que l'émotion est grande. Mm-hmm. Mais comme le groupe est très respectueux, puis évidemment qu'il n'y a aucun jugement et etc. Donc en fait,
et au contraire, ça,
contraire, il y a vraiment un accueil puisque il n'y a pas que des expérienceurs. Je voudrais quand même préciser parce que j'ai ouvert ces groupes aux personnes qui sont intéressées par le sujet. Avec une démarche, je dirais, sincère, évidemment, et qui aimerait un jour parler avec des gens qui ont vécu l'expérience. Donc, en fait, je précise qu'il n'y a pas que des expérienceurs. Et d'ailleurs, dans mon association, il y a une personne qui n'est pas du tout expérienceur, qui est un jeune monsieur de 35 ans et qui s'intéresse beaucoup à toutes ces questions. Et donc, en fait, ça permet simplement qu'on sait que le groupe qui est là, ayant vécu ou pas l'expérience, c'est un groupe de toute façon, voilà, d'un grand respect et d'une écoute et d'une ouverture d'esprit. Donc, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. On sait qu'on est en sécurité, on va dire. Voilà.
Oui, oui, oui. Vous nous avez parlé tout à l'heure de personnes qui vous ont appelé et qui vous ont fait part de leur mauvaise expérience, non pas dans le sens de l'expérience de mort imminente, mais de n'avoir pas pu en parler ou d'en avoir parlé, que ça se soit mal passé. Vous pouvez nous citer quelques exemples?
Ben, c'était pas plus tard qu'hier, par exemple. J'ai un monsieur qui m'a appelé, mais de Lille, donc c'est vrai qu'il est très loin et qu'il ne peut pas se déplacer jusqu'à Montpellier. Et effectivement, c'était, pour moi, c'était très triste d'entendre quand même une partie du témoignage parce que la personne dont il me parlait, elle a vécu finalement ses trois dernières années de vie en ayant ce doute très profond de savoir si finalement il n'était pas un peu devenu fou, pendant son arrêt cardiaque. Donc c'est quand même triste, je trouve, de faire croire à quelqu'un que voilà, il a peut-être perdu un petit peu ses moyens intellectuels ou autres, alors qu'en fait, il n'en est absolument rien, vraiment pas. Et que c'est simplement une vision du monde, quoi. Hein, donc, moi, je suis vraiment un peu triste de ça. Et bon, cette personne qui m'a appelée avait vécu lui-même donc une expérience de mort imminente lors d'un arrêt cardiaque. Et c'est vrai qu'il l'a vécu en 2001. Et c'était déjà important que, même si on peut pas se voir, parce qu'en plus, il peut pas trop se déplacer, c'était important quand même qu'on prenne, voilà, 20-30 minutes au téléphone pour parler de ça, pour qu'il me raconte son vécu. Oui. Et que moi, je lui confirme mon avis, qui évidemment est le mien, mais que voilà, il est absolument pas fou et que voilà, c'est une belle expérience.
Oui.
Mais
et que vous aussi, temps, vous l'avez vécu.
Et que moi, je l'ai vécu et donc j'ai raconté aussi un peu mon propre cheminement. Oui.
Mais de quoi avez-vous eu, parce que vous êtes passé par là également, vous avez vécu donc une expérience de mort imminente en 2003.
Oui.
En quelques mots, rapidement, vous pouvez nous dire dans quelles circonstances et de quoi avez-vous eu besoin comme aide après l'avoir vécu?
Oui. Alors en fait, donc en quelques mots, ça s'est passé donc lors d'un accident de voiture très grave, donc le 6 mai 2003. Et donc effectivement, moi, mon besoin, bon, ça n'a pas été tout de suite aussi, parce qu'il y a eu une grande période d'hospitalisation de un an.
Oui.
Donc, c'est venu après, on va dire à peu près 2 ans après.
Vous êtes souvenu, vous voulez dire 2 ans après,
non,
de ce que vous aviez vécu?
Non, je me suis souvenu très rapidement, puisque j'en ai parlé à ma mère aux soins intensifs. Quelques jours à peine après le choc contre l'arbre.
Oui.
Mais par contre, au niveau de mon besoin de parler de cette expérience-là de manière un peu plus large, c'est venu 2 ans après. Hein, donc je l'avais un peu mis de côté dans un coin de moi parce que c'était trop intense. Hein, donc
vous voulez dire qu'il faut vraiment une période de maturation, comme un sas, comme ça, de décompression?
Oui. Enfin, moi, je le vois comme quelque part comme une petite graine, cette expérience-là qui est semée évidemment en nous parce qu'on l'a vécu. Et que c'est tellement intense que quelque part peut-être il faut qu'elle germe à l'intérieur, je sais pas trop.
Oui.
Et voilà, donc moi je l'ai un peu en tout cas vécu comme ça. Et après, j'ai eu ce besoin, ce désir ardent aussi de comprendre, de chercher, de savoir si d'autres avaient connu ça. Enfin bon. Donc le besoin que j'ai eu, c'était le besoin de parler de ce vécu et de l'intensité extraordinaire de l'amour qu'il y a dans cette expérience. Et pour cela, c'est vrai que comme les mots terrestres sont un peu justes, c'est plus facile de pouvoir se comprendre avec quelqu'un qui l'a vécu.
Oui.
Voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, c'était essentiel de trouver quelqu'un qui l'avait vécu, qui voudrait bien m'accorder du temps, pour que je puisse parler de mon vécu.
Et est-ce que vous avez trouvé facilement quelqu'un qui l'avait vécu et à qui en parler? Ou alors ça a été vraiment une recherche compliquée?
Ça a été une recherche quand même, mais en même temps peut-être fallait-il que je sois prête aussi, vraiment prête,
parce que
quelquefois on croit qu'on est prêt, on n'est pas vraiment prêt. Donc ça a été une recherche quand même, mais je dirais qu'une fois que vraiment je crois que c'était clair en moi, tout s'est mis en route pour que je trouve, et j'ai trouvé effectivement. Donc ça m'a conduit en fait au Canada pour ma part avec Yantz Québec,
oui. Puisque c'est l'association Yantz, oui.
Yantz, mm-hmm. Voilà, au Québec, oui.
Qui existe en France, hein, Yantz France existe.
Qui existe en France, ouais. Effectivement. Mais c'est vrai que moi j'avais besoin réellement de trouver quelqu'un qui avait vécu l'expérience.
Oui.
C'était très important pour moi. Et donc je me suis bien sûr après rapprochée aussi de Yantz France. Et puis après, toutes les informations sont venues à moi parce que voilà, il y a eu la conférence de Sonia. J'ai eu toutes les informations qui sont venues.
Oui, ce congrès qui s'est déroulé à Martigues sur l'année.
Oui, le congrès sur l'expérience de mort imminente, 30 ans de recherche.
Oui, oui.
Donc c'était un congrès excellent et qui a vraiment permis d'ouvrir un petit peu une porte en France. Ouais.
Dites-moi, Nicole Canivinck, quand même, lorsque vous avez vécu cette expérience de mort imminente, vous vous êtes réveillé ensuite, vous avez eu le souvenir très clair de cette expérience que vous aviez vécue. Vous nous l'avez dit, vous étiez en soins intensifs et la seule personne à qui vous en ayez parlé, c'est votre mère. Hein. Est-ce que vous pensez que le personnel médical qui était là pour veiller sur vous, on est tout à fait d'accord pour dire que le personnel est attentif au moral de leurs patients, etc. Si le moral va, s'il y a un moral de une envie de vivre, de se battre, c'est mieux pour la guérison. Et est-ce que vous avez senti qu'ils auraient eu une oreille attentive et intéressée?
Non, moi je ne l'ai jamais perçue. Bon, je dois dire qu'en soins intensifs, vraiment, le personnel, par contre, est extraordinaire.
Oui.
Moi, je fais vraiment un petit hommage, là, au personnel qui travaille en soins intensifs parce qu'ils sont d'une grande humanité. Et je me suis d'ailleurs demandé, parce que je suis en train d'écrire aussi un témoignage, et je me suis demandé si c'était pas la proximité de la mort qui leur donnait une telle humanité.
Vraisemblablement. Vraisemblablement,
oui. Ouais. Et donc je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont vraiment très présents, très à l'écoute et avec une grande qualité d'attention, ce qui n'a pas été le cas malheureusement dans toute la suite de mon hospitalisation.
Ouais.
Mais tout ça pour dire que non, j'ai pas senti cette ouverture-là et donc j'en ai jamais parlé nulle part dans tous les hôpitaux que j'ai fait, au centre de rééducation, parce que j'ai pas senti que je pouvais parler de ça. C'est un sujet qui est quand même très spécial. Et je crois que, bon, peut-être tout le monde n'est pas prêt à entendre, peut-être parce qu'ils ne sont pas informés aussi, hein, donc c'est vrai que par rapport
mais
à ça...
ce qui vous a retenu, c'est la crainte du regard de l'autre, du jugement, qui disent, oula, elle est gentille, mais bon, elle a laissé des plumes dans le choc, elle déraille un peu...
Oui, il y a un peu ça, parce que quand on a des accidents aussi lourds que le mien, après, il y a des tests, quand on commence à aller mieux, il y a des tests psychologiques, etc., pour voir si on n'a pas perdu, des capacités neurologiques, etc.
Ce qui est normal.
Donc, c'est normal. Il y a un peu de ça, mais il y a surtout que c'est une expérience d'une telle beauté, où on rencontre un tel amour et une telle joie, puisque moi, c'est les deux sentiments extraordinaires que j'ai rencontrés avec ces êtres, que... Et on est en même temps très fragile quand on sort d'un accident, puisque bon, moi j'avais plein de choses cassées, j'étais vraiment très fragile, je dirais émotionnellement parlant, et physiquement aussi. Et donc du coup, si vous voulez, je crois que si par exemple j'avais raconté mon expérience et qu'on m'ait dit, qu'un médecin m'ait dit, comme c'est arrivé à ce monsieur-là, « Oh ben vous avez halluciné ou autre », ça aurait été vraiment presque pire que le choc de l'accident lui-même, quoi. Parce que c'est un tel cadeau, je trouve, d'avoir rencontré ces êtres et d'avoir vécu ces sentiments, que moi, ma recherche actuelle sur Terre, c'est aussi de les vivre,
les
retrouver et de les faire partager aux autres.
Tout à fait, oui. Expérience pour pouvoir continuer à vivre et surtout en retirer les fruits. Parce que c'est ça le plus important.
C'est finalement. Ça le bénéfice. Hein. C'est pas de survivre et de dire « je suis là, c'est vraiment dommage ». C'est d'en retirer les fruits et de chercher, à transformer ce cadeau.
Oui, 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 tout à fait. Donc, ce sont des groupes de paroles que vous créez. Maximum 10 personnes. Je redonne le numéro de téléphone où l'on peut vous contacter pour s'inscrire. Donc, c'est demain entre 14h et 18h, hein, c'est ça,
oui.
Du côté de Montpellier.
Oui.
Donc, le numéro de téléphone, c'est 06 22 43 79 01. 06 22 43 79 01 et on tombe sur vous, Nicole.
Voilà, hein? Exact.
Voilà, pour avoir toutes les informations. Beaucoup, merci beaucoup, Nicole Canivac.
Merci beaucoup, Louis.
Et puis,
à bientôt peut-être.
Ah ben écoutez, dès que vous organisez quelque chose dans ce sens-là, vous savez, vous êtes chez vous dans les Aventuriers de l'étrange, vous nous appelez et puis on vous ouvre l'antenne, c'est avec grand plaisir.
Merci infiniment et belle journée pour tout le monde.
À vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Louis Bénédi. Sur Sud Radio.
Les Aventuriers de l'étrange se terminent. On se retrouvera évidemment avec grand plaisir vendredi et samedi prochain. Les horaires sont un petit peu bousculés chaque vendredi, vous le savez, parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby. Donc ne vous inquiétez pas si les horaires bougent un tout petit peu, c'est tout à fait normal. Place à l'actualité du monde de l'Ovalie sur Sud Radio. Retrouvons-nous donc samedi et vendredi prochain avec une émission consacrée à vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, un phénomène d'apparition, de télépathie, un flash de voyance, une sortie hors du corps bien entendu, ou encore une expérience de mort imminente, eh bien appelez-moi au 0 826 300 300, laissez-moi vos coordonnées avec une petite phrase ou deux d'explication sur la boîte vocale sur le répondeur Les Aventuriers de l'étrange pour que je puisse vous rappeler et ensuite eh bien vous passerez à l'antenne et en compagnie de spécialistes, en l'occurrence là ça sera Pierre Mathias et Renaud Évrard, eh bien ils apporteront ou ils tenteront d'apporter des réponses ou des débuts de réponses à toutes vos questions qui sont évidemment légitimes. 0 826 300 300, vous pouvez également me contacter par mail étrange@sudradio.fr. La rediffusion des programmes de Sud Radio dans quelques instants et rendez-vous le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien.
Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi sur Sud Radio.